en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Cher Philippe Aguillon, monsieur le professeur, vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure de l'enseignement technique, l'ENS de Cachan, et vous êtes titulaire d'un doctorat de troisième cycle d'économie mathématique que vous avez obtenu à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Vous êtes parti compléter votre formation aux États-Unis, où vous obtenez un doctorat d'économie à Harvard. Vous êtes immédiatement choisi pour enseigner au prestigieux MIT de 1987 à 1989. Vous revenez en France où vous êtes élu chargé de recherche au CNRS en 1989, mais dès 1992, vous êtes appelé par les universités étrangères. Vous êtes successivement professeur associé au Nuffield College à Oxford entre 1992 et 1996. Professeur à University College de Londres de 1996 à 2002, puis à Harvard, professeur d'économie pendant 2 ans, puis Robert C. Wagoner, professeur of economics de 2002 à 2015. Tout en étant professeur à Harvard, vous commencez à enseigner à l'École d'économie de Paris à partir de 2006. En 2015, vous êtes élu professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Économie des institutions de l'innovation et de la croissance. Vous êtes également professeur invité à l'Institut d'études économiques internationales de Stockholm depuis 2009. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages ou articles de référence en anglais de 1992 à 2005 et puis en français à partir de 2006. Je vais me tenir à ceci. Politique économique et croissance en Europe en 2006. L'économie de la croissance, en collaboration en 2010, repenser l'État pour une nouvelle social-démocratie, en collaboration en 2011, et puis changer de modèle en 2014. Vos ouvrages ont retenu bien souvent l'attention des politiques et vous ne vous dérobez pas à l'engagement. Le cœur à gauche, social-libéral, comme vous vous définissez, vous êtes proche de Ségolène Royal lors de sa campagne présidentielle de 2007. Vous vous rapprochez ensuite de Gérard Collomb, avec qui vous fondez un think tank. En 2012, vous intégrez le petit cercle d'économistes qui réfléchit aux propositions de François Hollande, mais vous n'êtes guère entendu et vous exprimez rapidement votre déception. Vous soutenez au cours de sa campagne notre nouveau président de la République, que vous avez rencontré à l'occasion de la commission Attali, dont vous étiez membre. Nous sommes convaincus que vous trouverez désormais des oreilles plus réceptives. Vous avez été membre du Conseil d'analyse économique de 2006 à 2012. Dans ce cadre, vous avez publié de nombreux rapports, dont « Éducation et croissance » en 2004 avec Élie Cohen, « Les leviers de la croissance française » aussi en 2007 avec Élie Cohen, Gilbert Sept et Jean-Philippe Pisani-Ferry, et puis « Mondialisation, les atouts de la France » en 2007 avec Patrick Artus, Élie Cohen et Daniel Cohen. Vous avez également animé, dans le cadre de Bruegel, un groupe de réflexion d'une dizaine d'experts internationaux dont le travail a porté initialement sur une comparaison internationale de l'autonomie des universités, puis sur la mise en œuvre des campus d'excellence universitaire. Cette brillante et féconde carrière vous a valu de recevoir de nombreux honneurs et distinctions. La médaille de bronze en 1995, puis la médaille d'argent en 2006 du CNRS. L'Irio Janssen Award, décerné par European Economic Association en 2001. Le prix de la Revue française d'économie en 2001. Le Schumpeter Prize of the International Schumpeter Society en 2006. Le John von Neumann Award en 2009. Le Grand Prix de l'économie des Échos en 2016. Mais je soulignerai surtout que vous avez obtenu en 2015 notre Grand Prix Zerilli Marimo de notre compagnie pour l'ouvrage « Changer de modèle » que j'ai évoqué il y a un instant, en compagnie d'Élie Cohen et de Gilbert Sept. Vous êtes également membre de la prestigieuse Société d'économétrie et membre associé de l'American Academy of Arts and Science depuis 2009. Spécialiste de la croissance et de son moteur qu'est l'innovation, vous auriez pu intervenir à juste titre sur bien des sujets au cours de cette année académique que nous avons consacrée aux réformes qui sont aujourd'hui nécessaires pour redresser notre pays. Nous avons choisi de vous interroger sur l'enseignement supérieur, point crucial lorsqu'il s'agit d'innovation, qui a fait l'objet de votre part d'un rapport, malheureusement laissé sans suite. Je vous laisse donc maintenant répondre à notre question. Quelles réformes pour assurer la compétitivité internationale de notre système d'enseignement supérieur et de recherche ? Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse la parole.
Écoutez, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs, donc je suis venu dans ces murs le 4 janvier 1999, c'était Jacques Delarosière et Yvon Gattaz qui m'avaient invité pour venir parler de mes théories de la croissance. Donc déjà, voilà, j'ai poursuivi dans la voie que j'avais déjà initiée. En fait, en 87, et que j'avais commencé à présenter dans mon intervention de 99. Donc, je suis un économiste spécialisé dans la théorie de la croissance économique, et j'ai élaboré ce qu'on appelle maintenant la théorie de la croissance schumpeterienne. L'idée étant que, voilà, la croissance, surtout dans les pays développés, il y a trois idées importantes. La croissance repose sur l'innovation. L'innovation, eh bien, elle est le fait d'entrepreneurs, et les entrepreneurs répondent aux incitations. Donc les institutions et politiques économiques influent sur la croissance parce qu'elles influent sur les incitations à s'engager dans des investissements innovants. Donc on peut parler de politique de croissance, puisqu'on peut voir comment des politiques et des institutions influent sur les incitations à innover et donc génèrent de la croissance. Et la troisième idée, c'est l'idée de la destruction créatrice, c'est-à-dire que l'innovation, c'est le nouveau qui remplace l'ancien. C'est le conflit entre le nouveau et l'ancien. Donc on peut parler d'économie politique de la croissance. Donc d'un coup, la croissance qui est un domaine assez rébarbatif, je dois bien dire, quand j'étais étudiant, j'ai trouvé assez ennuyeux, est devenu tout d'un coup un domaine très excitant parce qu'on y parle de conflit et d'économie politique de la croissance. Voilà. Une autre idée que j'ai poussée pas mal, c'est que, en fait, les ressorts... Il y a deux façons de générer de la croissance... Enfin, je simplifie. Il y a deux façons de générer de la croissance de la productivité. L'une, c'est l'imitation. J'imite des technologies plus avancées. Et l'autre, c'est l'innovation à la frontière. C'est-à-dire que j'ai personne devant moi et je dois progresser sur moi-même. Et les institutions et politiques qui favorisent la croissance par l'imitation ne sont pas les mêmes que celles qui favorisent la croissance par l'innovation. Alors, une économie n'est jamais entièrement une économie d'imitation ou d'innovation. Mais disons, pour simplifier, évidemment, la France a toujours beaucoup innové. Mais une manière simple, c'est de dire, voilà, l'économie des Trente Glorieuses, c'était quand même beaucoup du rattrapage et de l'imitation. Nous avions des institutions adaptées pour ça. Disons, voilà, des politiques industrielles. On avait un marché du travail où les gens passaient toute leur vie dans la même entreprise ou le même secteur, des caisses de retraite pour chaque métier, des caisses d'assurance maladie pour chaque métier. On avait une économie adaptée aux nécessités, un système éducatif très centré sur le primaire, secondaire et les grandes écoles. Mais une économie d'innovation, eh bien, il lui faut d'autres conditions. Voilà, et un peu le problème que rencontre la France aujourd'hui, c'est qu'elle doit faire une transition de l'économie d'imitation qu'elle était et se doter d'institutions et de politiques qui lui permettra d'être pleinement une économie d'innovation, parce que maintenant l'imitation, elle est faite par les pays émergents. On peut plus être une économie d'imitation. On doit être une économie d'innovation. Et toute la difficulté maintenant, c'est d'engager la France sur la voie de réformes qui lui permettront de devenir véritablement une économie d'innovation. Alors je vais pas aller dans toutes les réformes, parce que on me demande de parler d'éducation supérieure. Donc je vais me concentrer aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on attend d'un système d'éducation supérieure et de recherche dans une économie de l'innovation. Alors, on attend au moins deux choses. D'abord, il faut qu'il génère de la recherche de pointe. Alors, on a toujours eu en France d'excellents chercheurs, et il ne s'agit pas là d'amoindrir la qualité, le travail remarquable de nos chercheurs. Mais ils doivent souvent, ils ont dû ramer contre le système pour pouvoir faire leur recherche. Donc, il faut un système qui génère de la recherche de pointe. La Silicon Valley se situe près de Stanford, la Route 128, c'est près du
MIT. Je veux dire, il n'y a pas de voilà.
Il faut des universités de pointe bien financées et bien gouvernées pour pouvoir générer cette recherche de pointe. Et la deuxième chose, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, l'innovation, c'est la destruction créatrice. Donc les gens, on va plus passer toute sa vie dans le même secteur ou dans le même emploi. Nos concitoyens vont être amenés à changer de secteur et d'emploi tout au long de leur vie. Et il faut un système d'éducation supérieure qui prépare nos jeunes à cette mobilité et leur apprenne à rebondir d'un emploi à un autre et leur apprenne à continuellement apprendre au cours de leur vie. On a l'enseignement de base, mais ça sera une vie où on sera sans arrêt en transition entre l'éducation et l'emploi et on devra s'éduquer tout au long de sa vie. Voilà, c'est une nouvelle et l'université doit jouer un rôle important pour préparer les individus à ce mode de vie-là. Voilà, au moins deux. Donc l'un, c'est recherche d'excellence et l'autre, c'est mobilité professionnelle et insertion professionnelle. Or, notre système actuel d'enseignement supérieur de recherche, sur le plan de la recherche, bon, il y a d'excellents chercheurs en France, on a des mathématiciens, on a la meilleure école de maths, on a des performances extraordinaires dans tous les domaines. Mais c'est vrai que si on regarde les classements, alors on peut accorder, chaque classement est imparfait, mais il faut regarder globalement, il y a Shanghai, il y a le Times, on peut regarder en termes de publications, d'impact des publications, on se situe quand même largement derrière les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Suisse, la Suède également, et d'autres pays. Donc, étant donné le potentiel que nous avons, nous pourrions faire beaucoup mieux. Donc, il y a déjà, on est loin derrière d'autres pays développés et on pourrait être au même niveau qu'eux. Et sur le plan maintenant de l'insertion professionnelle, comme 60% des étudiants universitaires échouent au bout de 3 ans, 24% d'enfants d'ouvriers qui quittent l'université sans diplôme et viennent accroître les effectifs du chômage chaque année. Voilà. Donc, comment réformer notre système d'enseignement supérieur et de recherche pour à la fois améliorer nos performances de recherche et permettre une meilleure insertion professionnelle de nos jeunes. Donc voilà un petit peu ce dont je vais parler maintenant. Je me déshydrate très vite. Désolé. Donc mon plan, je vais d'abord parler du lien entre éducation supérieure, innovation et croissance d'une manière générale. Voilà. Ensuite, je vais comparer la France aux autres pays développés. Et ensuite, je vais vous soumettre quelques idées sur comment réformer davantage, parce que je peux pas dire, il y a eu des réformes, et je vais mentionner la LRU, et puis il y a eu des choses importantes qui ont été faites, notamment sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, et avec Valérie Pécresse, qui étaient quand même des réformes audacieuses, et auxquelles il faut rendre hommage, et je le ferai dans cette intervention. Mais comment approfondir ces réformes? Voilà, donc je vais... Vous me dites, j'espère que je suis à l'heure. Alors, d'abord, je vais parler de la relation entre éducation supérieure, innovation et croissance. J'ai dit tout à l'heure qu'une économie d'innovation a besoin d'universités. Elle a besoin en particulier de ce qu'on appelle d'écoles de troisième cycle d'excellence. On dit en anglais graduate schools. Il faut des graduate schools qui soient bien dotées, et bien financées et bien gouvernées. Voilà. Et on peut montrer, en fait, j'ai fait des travaux, à la fois sur des comparaisons internationales ou sur des données entre comparaisons entre États américains, et j'ai montré qu'en fait, la croissance de la productivité ou le nombre de brevets ou l'impact des brevets, si on peut regarder l'un ou l'autre, augmenter avec l'investissement en éducation supérieure, avec l'autonomie que l'on donne aux universités, et avec également le fait qu'il y ait une part plus grande du financement des universités qui repose sur des bourses genre type NSF ou ANR ou Conseil de Recherche Européen. Voilà, si l'université est entièrement financée par l'État et pas par des bourses, en général, voilà, c'est un élément incitatif. Donc en fait, les conclusions de ces études que j'ai faites, c'est que sur données à la fois de comparaison de pays ou comparaison entre États américains et enfin sur d'autres, c'est que plus un pays ou une région est proche de la frontière technologique, donc plus c'est l'innovation qui est le moteur de la croissance, eh bien plus la croissance dans ce pays ou cette région est stimulée par un investissement accru en éducation supérieure. Donc c'est une conclusion qui ressort très nettement de ces études. Deuxième conclusion, il y a complémentarité entre investissement en éducation supérieure et autonomie des universités. L'un va avec l'autre. Si vous donnez de l'argent et que vous ne changez pas la gouvernance, vous aurez beaucoup moins d'effet que si vous donnez de l'argent et vous changez la gouvernance. Et en particulier, l'autonomie en matière de ressources humaines et de budget sont des aspects d'autonomie qui sont très importants. Ça, c'est sorti notamment de l'étude pour Bruegel et de la recherche qui a mené à cette étude pour Bruegel. Donc ça, c'est le deuxième. Donc il y a complémentarité entre financement et autonomie. Les deux, ça va l'un avec l'autre. Troisième idée, il y a complémentarité entre investissement en éducation supérieure et et le fait que eh bien, une partie du financement des universités se repose sur des bourses qui émanent du Conseil de recherche européen ou de l'ANR, des bourses concurrentielles, et aux États-Unis de la NSF. Voilà, d'introduire un élément d'incitation est un élément supplémentaire qui concourt à l'excellence universitaire. Voilà. Donc il y a encore trois piliers: moyens financiers, autonomie et incitation. Et une bonne réforme de l'éducation supérieure doit jouer sur ces trois piliers-là. D'accord ? Alors, c'est des études plutôt macroéconomiques. Je regardais des régions ou des pays. Mais j'ai fait une étude, je voulais vous la livrer, parce que j'aime bien, comme je suis chercheur, j'aime bien parler de ce que je fais en ce moment. Ça, ils sont le vif. Je suis fasciné en ce moment parce que je travaille sur des données micro, très, très microéconomiques. J'ai des données où je peux regarder les inventeurs. J'ai fait ça pour la Finlande. Maintenant, je suis en train de le faire pour la France. Et je peux connaître le revenu des parents, l'éducation des parents. En Finlande, je peux connaître le QI parce que les innovateurs de sexe masculin font le service militaire et là ils ont des tests de QI, notamment il y a le QI maths, le QI verbal et le QI visio-spatial. C'est très intéressant, donc on peut dire des... Et leur niveau d'éducation. Donc c'est très intéressant parce qu'on peut mettre ensemble des données fiscales, des données de recensement sur l'occupation et le revenu des parents et des données en termes de brevets et d'impact des brevets. Et on peut voir, voilà, les bons innovateurs, d'où ils viennent, qui sont-ils ? Et là, on obtient des conclusions tout à fait étonnantes. D'abord, il y avait une étude semblable a été faite aux États-Unis, et on regardait la probabilité d'inventer en fonction du revenu des parents. Et on voit que c'est une courbe, je sais que je peux pas montrer de transparent ici, je la fais avec des mains. On voit qu'en gros, quand le revenu des parents, c'est une courbe assez plate, c'est-à-dire que quand on part avec des parents qui ont un revenu assez faible, et qu'on augmente le revenu des parents, la probabilité d'innover n'augmente pas beaucoup. Et quand on arrive dans les zones élevées de revenus des parents, tout d'un coup, la courbe se met à augmenter très vite. C'est-à-dire qu'il semble que d'avoir des parents qui ont des revenus très élevés ou qui sont dans le top des revenus, ça a une incidence sur la probabilité d'inventer. C'était assez curieux, mais ça, c'est américain. Il y a eu un collègue qui a fait la même étude sur données historiques américaines remontant à 1840, obtient exactement la même courbe. Et moi, je me suis dit, si je regarde les données finlandaises, comme l'école est gratuite en Finlande, qu'on a l'impression que c'est une école de très bonne qualité, ce qui est le cas, mais je vais trouver une courbe complètement plate, c'est-à-dire que normalement, le revenu des parents ne devrait avoir aucune incidence sur la probabilité d'inventer. Et là, grande surprise, je retrouve une courbe qui est similaire à la courbe américaine. Mais je dis, comment est-ce possible, puisque l'école est gratuite, de très bonne qualité, on dépense pas un sou pour l'éducation depuis le jardin d'enfants jusqu'au PhD, comment est-ce possible? Et donc, on a essayé de comprendre. D'abord, on a fait une régression statistique de la probabilité d'inventer sur le revenu des parents. Donc, on trouve que d'avoir des parents avec un revenu élevé, c'est un déterminant. Mais alors ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a contrôlé pour l'éducation des parents. Et on s'est rendu compte que quand on contrôle pour le niveau éducatif des parents, eh bien, la courbe baisse. C'est-à-dire que le canal, c'est que des parents qui gagnent beaucoup en Finlande sont des parents éduqués et ils transmettent l'éducation à leurs enfants. C'est intéressant. C'est par le canal de l'éducation en Finlande que ça passe. Ça ne veut pas dire qu'aux États-Unis, ça serait la même chose. Donc, l'importance de la transmission de l'éducation par les parents. Ensuite, on a contrôlé pour le QI. Évidemment, la courbe s'aplatit encore davantage. Et puis ensuite, on a contrôlé pour le niveau d'études de l'individu. Et là, ça absorbe tout. C'est-à-dire qu'essentiellement, le niveau d'études d'avoir un PhD en sciences, ça explique pratiquement entièrement la probabilité de devenir inventeur. Et donc, c'est intéressant. Au total, qu'est-ce qui compte? C'est le niveau d'éducation, et notamment d'avoir un PhD en sciences ou un master en sciences, et dans une moindre mesure, le QI. Mais le niveau d'éducation, lui-même, dépend de l'éducation des parents et un peu du QI également. Donc, le QI agit directement et indirectement à travers le niveau d'éducation, mais l'éducation des parents et les ressources des parents jouent un rôle très important pour expliquer l'éducation des enfants. Donc, voilà. Donc, c'est quand même indépendant, puisque je parle d'éducation supérieure aujourd'hui. Hein. Donc, et alors, l'autre chose qu'on a trouvé qui est très intéressante, c'est que l'éducation et le QI sont complémentaires. Vous voyez, c'est des facteurs complémentaires. Chacun est important en lui-même, mais si vous donnez l'éducation à quelqu'un avec un QI plus élevé, ça augmente encore plus. Alors, l'idée, c'est pas de dire sélectionnez les gens à grand QI et ne donnez pas l'éducation aux autres. C'est pas du tout mon propos. Moi, je suis pour un système éducatif et d'enseignement supérieur qui donne sa chance à tous, mais en particulier qui s'assure que les gens qui ont des forts potentiels, les enfants qui ont des forts potentiels ne sont pas laissés sur le bord de la route, parce que si vous faites ça, vous perdez énormément en potentiel d'innovation au niveau du pays. Voilà, donc c'est intéressant. Je ne prends pas de jugement, mais c'est des conclusions intéressantes. Donc qu'est-ce que retenir de mon exposé jusqu'à présent? 1. Plus une économie est proche de la frontière technologique, plus l'investissement en enseignement supérieur et recherche est un levier de croissance. Il y a complémentarité entre investissement, autonomie, incitation.
Et enfin, il faut s'assurer que les individus, qu'il y a accès à tous aux études de bonne qualité, mais en particulier s'assurer que les individus les plus talentueux accèdent aux meilleurs enseignements, quel que soit leur milieu social, pour maximiser notre potentiel d'innovation. Voilà. Donc ça, c'est le. Donc maintenant, je vais parler un peu de la France comparée à d'autres pays. Est-ce que sur le temps, je me débrouille ? Ça va ? Comme je boive un petit peu, parce que je me déshydrate à la vitesse grand V, là. Voilà. Alors, j'avais travaillé un petit peu pour Bruegel et puis le rapport pour Valérie Pécresse. Et on avait fait un article avec des co-auteurs pour Economic Policy. Et on avait regardé un petit peu les performances Shanghai ou les citations, etc. Et le premier résultat, donc on peut classer les pays, parce que vous savez, il y a des classements Shanghai. Je veux pas vous embêter avec les classements Shanghai. En gros, si on regarde les 100 premiers de Shanghai, le premier a la note 100. C'est un peu comme le vote qu'on a eu tout à l'heure. Bon, le deuxième a la note 99, le troisième a la note 98, et on descend jusqu'au centième qui a la note 1, et tout le monde reste en 0. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et on regarde les pays, ont différentes universités qui peuvent être classées Shanghai, on fait la somme de tous ces chiffres, on divise, et ensuite on compare au niveau américain, et on fait en sorte que l'Amérique soit à 100. Vous voyez, je normalise les États-Unis à 100, et je regarde comparé à l'Amérique. Et je regarde les 100 premiers de Shanghai. Eh bien, la France est loin derrière. Si les États-Unis sont à 100, la Suisse est à 97. C'est extraordinaire l'exemple suisse. C'est intéressant la Suisse. Après, on me dit, tu es américain, tu penses que c'est... Non. Les États-Unis sont à 72, la France est à 3. Dramatique. La Suède à 7 et l'Allemagne à 0. Remarquez ça, on fait un peu mieux que l'Allemagne. Non, bon, c'est les 100 premiers de Shanghai. Mais maintenant, je peux... les 50 premiers de Shanghai, pardon. Ça, c'est les 50 premiers. Les 50 premiers. La France, 3. Donc, c'est très dur d'être dans les 50 premiers. Maintenant, je regarde les 100 premiers. D'accord ? Donc, quand je fais les 50 premiers, je mettais la note 50 au premier, la note 49 au deuxième, la note 48 au troisième, et je descendais jusqu'à 50, et après, tout le monde avait 0. Maintenant, je regarde les 100 premiers. 100 premiers, la Suède a 117, si les États-Unis ont 100. Donc là, la Suède, tout d'un coup, elle émerge. Les autres qui se débrouillaient déjà très bien, comme la Suisse et les Royaumes-Unis se débrouillent très bien. La France, 15. Donc même dans les 100 premiers, la France n'a que 15. Et l'Allemagne, 17. Si je regarde les 200 premiers, la France monte à 29. Et si je regarde les 500 premiers, la France monte à 45. Donc ça vous donne quand même une idée du chemin à faire. Alors on peut dire, si vous n'aimez pas Shanghai, regardez des classements en termes de brevets, d'impact des brevets, vous trouvez quelque chose de très similaire. D'accord ? Ça, c'est l'état des lieux. Deuxième résultat, il y a une corrélation. Donc maintenant, on dit, voilà l'état des lieux. Maintenant, qu'est-ce qui détermine un bon classement ? Eh bien, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent y contribue. C'est-à-dire que le résultat qu'on trouve, c'est une corrélation fortement positive entre les dépenses par étudiant et les performances Shanghai. D'accord ? Il faut des moyens. Sans moyens, dans la pauvreté, dans la misère, on n'arrive à rien. Voilà. Alors, aux États-Unis, en 2001, les États-Unis dépensaient 36 500 euros par étudiant par an, dont 16 600 publics et 19 900 privés. La France, à l'époque, était à 8 700 euros par an. Maintenant, on est monté, on est à peu près à 12 000, 13 000, d'accord ? Mais on est quand même très en dessous, d'accord ? Et en France, c'est 7 500 étaient publics, 1 200 privés. Alors, ça a changé un peu, ces chiffres-là. La Suède est à peu près à 20 000, dont l'essentiel est public. Tout est pratiquement public en Suède, d'accord ? Donc, États-Unis, 36 500, Suède, 20 000, et nous, à peu près 9 000. Et on trouve les classements. US, c'est mieux que la Suède, et la Suède, c'est mieux que nous, d'accord ? Donc, c'est intéressant. Donc, voilà. Et la France a aujourd'hui à peu près à 12 000, 13 000 euros par étudiant par an, mais on est quand même loin des 20 000 Suédois, et alors, on est quand même encore très loin des 36 000 Américains. D'accord ? Résultat suivant. La gouvernance. Eh bien, on a envoyé des questionnaires aux 500 meilleurs du classement de Shanghai en 2006. Est-ce que vous déterminez vous-même vos programmes ou est-ce qu'on vous les impose ? Est-ce que vous déterminez votre grille salariale ou on vous les impose ? Est-ce que vous avez de libre d'embaucher qui vous voulez ? Vous voyez très bien où je vais venir, là. Vous voyez venir, un gros sabot. Disposez-vous d'une totale autonomie budgétaire ? Disposez-vous d'une autonomie dans l'achat d'équipements ? Quelle est votre part de budget financé par des bourses, comme je disais tout à l'heure ? Et là, la France, évidemment, est en queue de peloton en matière d'autonomie. En particulier, très peu d'autonomie en matière de recrutement, j'y reviens tout à l'heure, ou de promotion, et également d'achat d'équipement. Moi, si je veux acheter un équipement au Collège de France, on me donne une liste. Et il faut que ça rentre dans la liste. Voilà, enfin, c'est amusant. C'est une relecture de Kafka. Et ce qu'on a montré, c'est qu'il y a une corrélation fortement positive entre autonomie et performance Shanghai. Donc j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait une corrélation positive entre les moyens mis dans l'université et les performances. Il y a une corrélation également positive avec l'autonomie. Résultat suivant, il y a complémentarité, vous savez, je suis très obsédé par les complémentarités, entre autonomie et moyens dans les performances Shanghai. C'est-à-dire que vous donnez des moyens à une université plus autonome, les faits sur les performances Shanghai vont être bien plus importants que si vous ne changez pas la gouvernance. Et c'est important non seulement pour l'excellence en matière de recherche, mais également pour l'excellence en matière d'insertion professionnelle. Je ne suis pas obsédé. Rappelez-vous que l'objectif est double. C'est à la fois d'avoir de très bonnes performances de recherche et d'améliorer l'insertion professionnelle. Il y a différentes manières de mesurer l'insertion professionnelle. Inversement, par le taux de chômage des jeunes diplômés, par l'écart de taux de chômage entre diplômés du secondaire, diplômés du supérieur, par le niveau de satisfaction professionnelle, par la durée de recherche d'un emploi. Vous avez différentes mesures qui ne sont pas totalement équivalentes, mais qui sont assez semblables. Et vous pouvez mesurer la performance d'université en matière d'insertion. Eh bien, l'autonomie et les moyens qui sont déjà très importants pour des bonnes performances de recherche, c'est également important et complémentaire pour l'insertion professionnelle. C'est une chance que ce soit les mêmes ingrédients qui vous donnent et l'un et l'autre. C'est une chance. Voilà. Donc, alors maintenant, parlons de la réforme. Venons-en au sérieux, là. Je vais juste reprendre un peu d'eau. C'était une introduction. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, là. Alors, comment réformer davantage notre système d'enseignement et recherche? J'ai dit tout à l'heure, il faut plus de moyens, plus d'autonomie, plus d'incitation. Il y a eu la loi LRU, qui est passée le 10 août 2007, et c'est un premier pas important vers davantage d'autonomie. Cette loi accordait une autonomie accrue en matière de gouvernance, non pas une autonomie de statut par rapport à l'État, les universités demeurent intégralement publiques, pas une autonomie sur le recrutement, en tout cas pas véritable, ni vraiment en matière de financement. Mais, et ça c'est très bien décrit par Monique Antos-Perber dans son ouvrage, donc là ça m'a été très utile pour préparer cette partie, les universités peuvent définir une stratégie scientifique et allouer les moyens financiers disponibles pour cette stratégie, pour soutenir des initiatives nouvelles. Donc ça c'est déjà, il y a une identité de l'université. Et les anciens chercheurs qui avant étaient payés directement par Bercy, ils reçoivent leur fiche de paye de l'université. C'est peut-être pas une grande différence, mais symboliquement, ça fait qu'une différence. On est employé de l'université. Voilà, c'est ce que c'est. Voilà, on peut en discuter. Mais pourtant, malgré ces réformes, eh bien, l'écart ne cesse de se creuser en matière de performance scientifique entre nous et des pays comme la Suisse, la Suède, les États-Unis. D'accord? Donc là, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, il faut passer à la vitesse supérieure. Et valoriser encore davantage les trois piliers, moyens, autonomie, incitation. Alors là, j'ai un petit peu travaillé récemment avec d'autres sur une feuille de route pour le président de la République. Et en gros, voilà, donc, alors il y a des choses qui ont été retenues, puis des choses que moi je pousse et qui j'espère seront retenues. Bon, augmentation des moyens, le budget de l'enseignement supérieur, je pense, sera augmenté. Je ne veux pas dire de combien, je ne veux pas dire... Mais enfin, en tout cas, dans la feuille, il était question d'augmenter de 1,4 à 1,6 points de PIB. Donc je ne sais pas ce qui sera retenu. Donc ça, c'est ce qu'on proposait. Je ne sais pas quel arbitrage sera retenu, surtout que maintenant, alors, il y a des contraintes budgétaires qui ne vous ont pas échappé, qui vont devoir être traitées. Mais il y a l'idée d'augmenter les moyens, ça, c'est reconnu. Alors, une idée que j'ai poussée personnellement pendant cette campagne, c'est comme moyen d'augmenter l'autonomie, c'est de... Vous savez, il y a les conseils nationaux universitaires. Pour le moment, quand on veut embaucher et promouvoir, on est pratiquement obligé de passer par le CNU. Alors, je ne veux pas du tout... ça a beaucoup de qualité. Le CNU est c'est aussi un garant de qualité, c'est un garant, donc il y a de très bonnes choses avec le CNU. Mais nous, en économie, ça vous a peut-être pas échappé, je ne sais pas si les débats ont eu lieu, nous avons eu des petits problèmes avec l'économie au CNU. Il y a eu un groupe d'économistes qui ont voulu créer une deuxième section du CNU. Voilà, il y a un débat infernal, voilà. Et moi, ça m'a donné un peu l'idée de dire, mais pourquoi ni une première section, ni une deuxième section? Pourquoi ne pas donner aux universités elles-mêmes le pouvoir de recruter et de promouvoir les enseignants-chercheurs? Alors, c'est pas dire que le CNU garderait un rôle, mais donner quand même aux universités le droit de le faire également. Peut-être que petit à petit, le CNU de... Voilà. Donc alors évidemment, ça pose un problème qui est celui de la qualité, parce que d'abord, les universités peuvent recruter... Il y a l'endogamie, il y a le risque que les universités embauchent leurs personnes. Donc ça, on peut dire qu'on ne le permet pas. Donc toute la question, c'est d'empêcher l'endogamie ou de minimiser la probabilité d'endogamie. Et la deuxième chose, c'est l'évaluation de la qualité. Mais là, on passe à un système d'incitation qui est de dire, on évalue la qualité. En Angleterre, par exemple, que j'ai passé beaucoup de temps en Angleterre, il y avait ce qu'on appelait les Research Assessment Exercises et les Teaching Assessment exercer. Nous étions évalués. Et selon l'évaluation, on obtenait des financements ou pas. Donc, les universités ne pouvaient pas faire n'importe quoi parce qu'elles savaient qu'elles n'obtiendraient pas les financements. Donc, on ne passera pas à un système comme ça du jour au lendemain. Mais je crois qu'il faut responsabiliser les universités et leur dire, on va vous responsabiliser, mais il y aura un système d'évaluation et d'incitation. Voilà. Donc, on n'ira pas en une fois, mais je crois qu'il faut évoluer vers un système où on traite les gens comme des adultes, mais en même temps, ils ont des droits et des devoirs et ils sont responsables. Voilà. Donc, je crois que, donc voilà. Et je crois, et l'idée que de donner, donc cette idée a été retenue par le, enfin, je crois que le président a été faire un discours à Grenoble où il avait retenu mon idée, j'étais très content. Troisièmement, mettre en place un système d'incitation cohérent. Donc ça, je vous l'ai dit. Donc c'est à la fois un système d'incitation à l'excellence sur le modèle des Research Teaching Assessment britanniques ou de leurs équivalents suisses ou scandinaves. Donc ça, je l'ai dit. Et également une ANR dont le budget serait sensiblement augmenté. Vous savez que le budget de l'ANR, maintenant, c'est 800 millions. Les Allemands, c'est 2 milliards. Et encore, il a fallu se battre pour que ça ne tombe pas à 500. Donc on est vraiment lilliputien à côté de l'Allemagne, voyez. Donc il faut que on ait une ANR qui soit bien financée, puisque j'ai dit tout à l'heure l'importance de l'aspect incitation pour l'excellence universitaire. Donc si vous avez une ANR très sous-financée, ben ils retiennent très peu de projets et les gens sont découragés de soumettre. Ils disent pourquoi je vais me passer du temps à soumettre un projet à l'ANR puisque de toute façon je serai pas pris puisqu'il y a pas d'argent. Voilà. Alors autre mesure que moi je pousse, alors là c'est moi qui m'exprime, il faut mettre davantage l'accent sur l'objectif d'un j'y arrive presque au bout, hein. Je ne dépasse pas, je ne suis pas encore. Il faut mettre l'accent davantage sur l'objectif d'insertion professionnelle, en particulier à travers une plus grande diversité des parcours et flexibilité des parcours. Je suis vraiment pour avoir des filières courtes, des filières longues, des filières professionnelles, des filières générales, dans le même collège universitaire, vous voyez, et avec des passerelles. Donc on peut commencer en cours, passer en long, et vous voyez, des passerelles. Et les Suisses sont en train d'expérimenter un système comme ça. Donc on peut le faire. Et donc il faut, nous, pour l'instant, c'est très séparé. Les IUT, les grandes écoles, tout ça est dans des situations différentes. Je suis pour, petit à petit, rapprocher les institutions de façon qu'il y ait une culture de la première chance, de la deuxième chance, et qu'on puisse passer de l'un à l'autre plus facilement. Il y a l'exemple suisse, mais il y a d'autres exemples. Cette flexibilité accrue des parcours contribuera à réduire l'échec à l'université et à donner une seconde chance à tous ceux qui poursuivent des études supérieures. Je crois aussi beaucoup à la spécialisation progressive en premier cycle. Vous savez, il y avait l'idée de la propédeutique, c'est pas nouveau. Et aux États-Unis, comme je suis passé quand même 15 ans à Harvard, j'ai vu l'avantage. Moi, j'ai vu des étudiants qui commençaient en économie, après aller dans d'autres matières ou le contraire. Et on peut, parce qu'on peut à un moment donné se rendre compte d'abord qu'on n'est peut-être pas aussi bon qu'on pensait ou qu'on n'aime pas autant la matière qu'on pensait. Et on peut, mais on ne perd pas le bénéfice des deux premières années. Et les classes prépa, elles ont une spécialisation progressive. Quand vous faites maths sup, c'est pas la même chose que CAN, mais dans maths sup, vous pouvez décider plus tard que vous allez vers la physique, chimie ou vers les maths. Et en littéraire, vous pouvez décider que vous allez vers le latin grec ou vers les lettres modernes ou vers. Eh bien, il faut réintroduire ça en premier cycle également, la spécialisation progressive, parce que je ne crois pas du tout à la sélection par l'échec, je crois beaucoup à la sélection par l'orientation, et permettre la sélection progressive, l'orientation progressive est une manière d'atteindre ce but. Donc ça, voilà. Et là également, les Suisses ont fait des choses très intéressantes. Il y a l'exemple américain. En Allemagne, il y a le Leibniz College de Tübingen, apparemment, qui est très bien dans ce domaine et qui fait des choses très bien, et d'autres endroits. Alors, je pense également qu'il faut une meilleure qualité de l'information des étudiants sur le contenu et la qualité des enseignements, ainsi que sur les débouchés. Il faut créer des portails nationaux d'information, que les étudiants, quand ils décident, eh bien, ils puissent décider d'exprimer des préférences en étant informés des débouchés des différentes universités. Vous savez que ça existe en Angleterre, en Allemagne, dans d'autres pays. Il faut que nous puissions mettre en place un portail national. Ça m'amène au problème de l'orientation à l'entrée. Faut attention, il y a un mot que je dois faire très attention. Et c'est l'instauration d'un système d'orientation à l'entrée de l'université, je l'appelle comme ça, hein. Il faut remplacer le système APB, Admission Post-Bac actuel, fondé sur la sectorisation et le tirage au sort, par un système d'allocation des étudiants basé à la fois sur les préférences exprimées par les étudiants, qui seraient basées sur ce portail, sur cet meilleur accès à l'information, parce que pour le moment ils n'ont pas l'information, et deux, le mérite. Il faut donner la priorité aux meilleurs étudiants issus de chaque établissement secondaire. Il y a une manière de le faire aussi qui ne pénalise pas les gens venant de zones défavorisées. Toutes les initiatives qui ont été de dire les très bons venant même des zones les plus défavorisées peuvent avoir une chance et doivent être poussées dans ces formations. J'ai un collègue qui s'appelle Al Roth, qui a eu le prix Nobel d'économie pour montrer comment on peut faire fonctionner un système comme ça où les préférences sont exprimées et ensuite il y a élection. Il faut davantage utiliser les travaux de mon ami Al Roth, qui était mon collègue à Harvard pendant plus de 10 ans. Voilà. Et je crois que ça serait un progrès gigantesque par rapport au système APB actuel. fin, et j'arrive presque au bout, vous avez été d'une patience d'ange, il faut progressivement surmonter la division de notre système d'enseignement supérieur et de recherche entre universités et grandes écoles. Cette dichotomie entre universités et grandes écoles est ancrée dans notre histoire, comme l'explique très bien Monique Cantos-Perber dans son ouvrage « L'oligarchie de l'excellence ». D'un côté, vous avez l'université, mais sous l'Ancien Régime, c'était un lieu fermé où se dispensait un enseignement très figé, réservé à une caste de privilégiés. C'était ça, l'université de l'Ancien Régime. Et par exemple, elle explique très bien que la Révolution des Lumières a à peine... disons que les universités étaient très imperméables à cette Révolution des Lumières. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en 1793, eh bien, évidemment... surtout en réaction à ce côté très caste de l'université, eh bien la Révolution française supprime l'université, elle est supprimée en 1793, les universités ne sont rétablies que beaucoup plus tard, en 1876, mais là, évidemment, on dit on va prendre le contre-pied total de ce que c'était avant, et on passe d'une extrême à l'autre, et l'université, bah, c'est un lieu où tous les bacheliers peuvent être admis sans sélection à l'entrée. Et on comprend maintenant d'où ça vient la pas de sélection à l'entrée. C'était en réaction à ce qu'était l'université d'Ancien Régime. Voilà. Mais d'un autre, donc vous avez une université qui interrompue et qui passe d'une extrême à l'autre quelque part. Tandis que les grandes écoles, eh bien c'est une évolution beaucoup plus harmonieuse et continue. Elles apparaissent vers la fin du XVIIe siècle pour répondre à la nécessité de diffuser des enseignements techniques et spécialisés. Et depuis leur apparition jusqu'à nos jours, les principes qui gouvernent ces grandes écoles n'ont pas beaucoup changé. Sélection par concours, programme de formation exigeant, croissance modérée du nombre d'effectifs. Alors la situation actuelle, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est très simple, on fait le contraire de ce qu'il faut faire. Les universités sont pauvres, je l'ai montré tout à l'heure, taux d'échec élevé, 60% après 3 ans, ne sont pas en général le premier choix des meilleurs élèves issus du secondaire, d'accord, et ne sélectionnent pas du tout. En même temps, comme dirait l'expression, la fameuse, elles possèdent des laboratoires de recherche de premier plan, reconnus mondialement, et elles comptent de nombreuses sommités scientifiques dans leurs effectifs. Donc il y a le pire et le meilleur dans l'université française. Et la recherche, ça, c'est là-bas que ça se passe. Voilà. Mais de l'autre côté, les grandes écoles, eh bien, elles ont une bonne... Et elles ont une gouvernance pas très bonne, les universités. Ça, j'oublie, last but not least, quand même. Hein. Bon. Maintenant, les grandes écoles, elles attirent les meilleurs élèves du secondaire. Elles sont bien gouvernées. Elles sont beaucoup mieux dotées que les universités. Mais la recherche de pointe y est... peu présente. Ces écoles se concentrent beaucoup sur les enseignements spécialisés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de recherche, mais c'est pas là que... Voilà. Ces écoles... donc voilà. Ça va pour une économie d'imitation, mais une économie d'innovation, il vous faut des graduate schools. Voilà. Il vous faut du troisième cycle d'excellence. Et ce qui est quand même incroyable, c'est qu'en Suisse, en Suède, aux US, en Grande-Bretagne, les meilleurs élèves du secondaire choisissent d'emblée l'université. Nous, ils évitent l'université. Où la recherche de pointe se fait. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, comment faire petit à petit converger les deux systèmes? Évidemment, on ne va pas supprimer. On va faire ça progressivement. Bon, d'abord, il faut donner davantage de moyens à l'université. C'est quand même important. C'est évident que tant que l'université est le parent très, très pauvre de l'éducation supérieure, on ne pourra pas faire converger. Je crois qu'il y a d'autres pistes également. La mise en place d'un nouveau système de sélection à l'entrée, d'orientation à l'entrée, contribuera à faire converger les cultures. La progressivité dans la spécialisation et l'intégration et l'intégration des grandes écoles au sein des collèges universitaires, comprenant formation courte, formation longue et préparation aux grandes écoles, contribuera à intégrer les deux. Et puis la mise en place de bons systèmes de gouvernance. Alors là, j'en viens à la gouvernance. C'est quelque chose que j'ai beaucoup poussé dans le rapport pour Valérie Pécresse. C'est-à-dire que j'ai dit, voilà, les bonnes universités, par-delà les comparaisons, c'est très intéressant parce que par-delà la diversité des arrangements, il y a des constantes. Et les universités qui marchent bien, vous avez d'abord un conseil. C'est de la même manière qu'ici, on a un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire. C'est Montesquieu appliqué à l'université. C'est-à-dire que vous avez d'un côté un conseil d'administration qui est composé de personnalités en majorité externes à l'établissement. D'accord? Ça peut être des anciens alumni, des anciens étudiants, ça peut être des gens de la région, des gens qui économiquement sont influents, ça peut être différent. Et il nomme le président et surveille les grandes orientations budgétaires de l'université et l'application des grandes orientations de politique académique de l'université. Voilà, ça c'est le board. Et puis vous avez un sénat académique qui est composé de personnalités internes à l'établissement, essentiellement des professeurs, et qui en fait gouverne l'université. Et il y a les fameux comités ad hoc. C'est quand on veut recruter, moi j'ai été dans des comités ad hoc aux États-Unis, quand on veut recruter des professeurs par exemple, promouvoir, il y a évidemment les professeurs, mais on fait toujours venir des gens de l'extérieur qui vous disent non mais là ça va pas quoi. Donc il faut, et il y a toujours un regard externe quand même sur le processus de recrutement et de promotion. Voilà. Et bien je pense que ces principes là alors d'un pays à l'autre ça peut changer. Par exemple les instituts Max Planck, les externes c'est les gens des Max Planck, des autres l'autre, Max Planck. Vous voyez, chaque et d'un pays à l'autre, ça change. Mais ces principes de base de bonne gouvernance sont appliqués. Je crois qu'il faut les pousser pour ces principes-là. Et c'est des principes qui gouvernent les grandes écoles. Beaucoup de grandes écoles sont gouvernées de cette manière-là. Donc ça va rapprocher les grandes écoles des universités. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, j'espère que les éléments de réflexion que je viens de vous soumettre contribueront au débat sur comment réformer davantage notre système d'enseignement supérieur et de recherche pour aider à ce que la France retrouve le chemin d'une croissance soutenue et qui ne laisse personne sur le bord de la route. Je vous remercie de votre attention.
Oui. Ah oui, absolument.
Merci, oui, Philippe Aillion. Nous allons passer aux questions. La première question est posée par Yvon Gattaz.
Merci, Monsieur le Président. Oui, Philippe Aillion, nous connaissons bien. Il a rappelé tout à l'heure que lorsque j'étais président de cette compagnie en 1999, il m'avait été présenté par Jacques Delarosière, qui l'avait sous ses ordres lorsqu'il était président de la BERD. BERD, je le rappelle au passage, et vous savez tous que Jacques Delarosière avait sauvé du naufrage in extremis, dans des circonstances que nous connaissons bien. Et j'avais demandé à Philippe Aillion, le 4 janvier 1999, de traiter du sujet « L'innovation, source de la prochaine croissance ». Ce qui prouve qu'il a de la constance dans les idées, car aujourd'hui, il nous a traité de sujets voisins avec son dynamisme habituel. Bon, je ne vais pas reprendre tout ce qu'il a dit parce que c'était extrêmement varié et qu'il a dans ses domaines une connaissance statistique que nous n'avons pas. Je voudrais simplement intervenir sur quelques points précis. Cher Philippe Aillion, vous avez parlé à plusieurs reprises de la recherche de pointe. Alors, cette expression « recherche de pointe » me chagrine toujours un peu. J'ai moi-même une entreprise qui fait beaucoup de recherche, que nous ne devons pas appeler recherche de pointe. Et je rappellerai la phrase de François Dalle, lorsqu'il était président de L'Oréal, puis président de l'Institut de l'entreprise, et qui disait « Il ne s'agit pas de rechercher les domaines de pointe, mais de mettre de la pointe dans tous les domaines. » Voilà. Alors c'est vrai qu'on peut mettre de la pointe dans tous les domaines, et dans ceux qu'on croit tout à fait d'une grande banalité, ce n'est pas vrai. Même dans des sujets d'une grande banalité, on peut mettre de la pointe et on s'aperçoit que c'est ça qui transforme justement certains départements. Deuxième remarque, et ça, vous avez parlé beaucoup de l'enseignement supérieur, vous étiez là pour ça, et c'est vrai que statistiquement, nous avons tous fait des découvertes. Moi-même, j'en ai fait une assez curieuse en travaillant avec l'INSEE, comme vous le savez. Nous avons découvert avec l'INSEE que le taux de croissance, nous sommes dans le sujet, d'une nouvelle entreprise qui vient d'être créée est fonction du niveau d'instruction, on fait ce mot très général volontairement, du créateur d'entreprise. Plus le niveau d'instruction du créateur est élevé, plus on a des chances que la croissance de la nouvelle entreprise soit forte, donc qu'il crée des emplois. Et statistiquement, comme nous a montré l'INSEE, c'est vrai que le plombier qui crée sa petite entreprise n'emploie qu'une ou deux personnes, alors que celui qui sort d'une grande école ou qui a un doctorat prestigieux d'une université a envie de créer une entreprise de croissance de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes. Et on voit, en regardant bien les statistiques, les géants actuels, ils ont été créés par des gens qui avaient abordé l'enseignement supérieur, quelquefois en l'abandonnant, mais qui étaient d'une intelligence exceptionnelle. Alors, le QI, j'aime pas beaucoup le mot de QI, vous savez qu'il a été souvent contesté, et dans la création d'entreprises, nous avons le QI, qui est le quotient d'indépendance, et non pas le quotient d'intelligence. Sur les gens, on a donné 200 interprétations, vous le savez, toutes contestées. On ne sait pas bien ce que c'est qu'un QI, on ne sait même pas bien ce que c'est que l'intelligence, comme disait notre ancien confrère Louis Armand, qui avait été dit l'homme le plus intelligent de France, qui disait « je ne sais pas ce que ça veut dire, il faudrait qu'on définisse l'intelligence ». Voilà. Alors ma question, s'il en est une, c'est de savoir ce que vous pouvez nous dire sur le coefficient d'indépendance par rapport au quotient d'indépendance par rapport au quotient d'intelligence.
Philippe Aillion.
faire justice. Donc d'abord sur le premier point, je l'avais mal exprimé. Je voulais dire exactement ce que vous avez dit. Donc voilà, c'est-à-dire mettre la pointe dans tous les domaines. C'était pas dire être sélectif sur les domaines. C'était vraiment. Et alors il y a des métriques plus ou moins bonnes selon les domaines pour mesurer la qualité, mais c'est très imparfait évidemment. Mais on peut parler de citations, on peut parler de recommandations. Il y a différentes manières de mesurer la qualité, d'impact. Est-ce qu'on est cité tant d'années après? Est-ce qu'on a changé un domaine? Voilà. Et c'était vraiment l'idée de mettre la pointe dans tous les domaines. Entrepreneur, mais oui, absolument. D'ailleurs, c'est intéressant. L'étude que j'ai faite sur les innovateurs finlandais, je suis en train de faire la même sur les entrepreneurs, en fait. Et je travaille sur les entrepreneurs français. Mais il me fallait beaucoup de temps pour avoir des données fiscales. Vous savez, parce que le problème avec les données fiscales, c'est qu'il faut que ce soit anonymisé, évidemment. Donc maintenant, je les ai, ces données. Je peux regarder et voir si ce qui s'appliquait aux innovateurs s'applique ou pas. Aux entrepreneurs, à ceux qui créent des entreprises. Voilà. Et donc, je suis vraiment dans ce domaine. Et il y a eu très peu de travaux qui utilisent des données individuelles. On met des données individuelles fiscales ou de milieu social et qui relient à la performance en matière de création d'entreprise. Alors vous avez parlé des grandes écoles, absolument, je voudrais rendre hommage d'abord des grandes écoles françaises, je veux dire, on a des grandes écoles formidables et la recherche se fait. Moi je suis très impressionné en particulier par Polytechnique, je suis très proche de Jacques Biot et c'est extraordinaire. Vous avez vu l'incubateur, vous avez visité l'incubateur c'est extraordinaire, voilà. Donc c'est en train de se passer et il y a Saclay quand même, j'étais dans le jury des IDEX au début, et on a beaucoup poussé pour qu'il y ait un rapprochement entre Polytechnique et il faut être patient, mais c'est comme dans la recherche, il faut être patient. Moi je crois toujours qu'il faut être patient, mais en tout cas voilà, il se fait des choses formidables et il y a un rapprochement des cultures, et Jacques Biot a beaucoup œuvré pour introduire la recherche à Polytechnique. Sur le quotient intellectuel, écoutez, ma vision, il y a eu un livre très intéressant qui s'appelle The Blank Slate, récent, et qui essaie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces variables de QI. Et en gros, il y a à la fois des aspects cognitifs, et il y a l'idée, qu'est-ce qui est génétique, qu'est-ce qui est social? Et il y a une grande part de social également. Voilà. Mais tout n'est pas social non plus. Parce qu'ils ont fait des études sur les jumeaux, par exemple. Vous voyez, tout le côté social est identique et il y a quand même des différences. Donc, voilà, il y a une recherche. Moi, je ne prétends pas, moi, je m'inscris un peu dans les pas de cette recherche. Je crois qu'il faut faire très attention de ne pas, voilà. Mais c'est, en tout cas, on ne peut pas ignorer qu'il y a ces données-là. Et c'est important de dire qu'il y a quand même des gens très capables qui ne peuvent pas accéder aux études et il faut s'assurer qu'ils puissent accéder. C'est un levier de croissance également. Comme vous le dites, ce qu'on mesure par le quotient intellectuel, encore peut-être un peu moins avec le visio-spatial que les maths et le verbal, c'est un mélange de génétique et de milieu social et de culture. Voilà, ça, il y a tout un débat là-dessus qui est, mais je crois que c'est important quand même de mentionner qu'il y a des résultats sur cette et qu'il y a des progrès intéressants dans ce domaine.
Voilà. Chers confrères, j'ai 10 questions et nous avons 50 minutes, donc ça fait 5 minutes par question pour question-réponse. Je donne la parole à Jean-Robert Pitt.
Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir secoué la torpeur de cette journée torride. J'avais demandé la parole au début parce que j'ai été interpellé par le tout début de votre exposé et la fin était plutôt... J'étais beaucoup plus d'accord avec la fin qu'avec le début. Et c'est lorsque vous avez fait un éloge appuyé de la loi LRU de 2007, la loi Sarkozy-Valérie Pécresse, que j'ai accepté, étant président à l'époque, mais en contestant un certain nombre de dispositions, et qui s'est avérée, pour moi, cautère sur une jambe de bois, c'est-à-dire qu'elle n'a strictement rien changé à la vie universitaire, puisque c'est une, à mon sentiment, je vous interroge à ce sujet, peut-être que vous allez me convaincre du contraire, c'est une fausse autonomie, en particulier c'est pas une autonomie financière, puisque 80 à 90% des ressources des universités viennent de la dotation d'État, que l'évaluation, normalement, des enseignements qui devraient être faits, qui n'est pas faite, jouent un rôle très très faible dans la modulation des dotations de l'État, que on ne fait pas payer de droit d'inscription y compris aux étrangers, ce qui les choque complètement. Les Chinois sont étonnés de ne pas avoir à payer dans une université. Quand ils découvrent ce que sont certaines universités, ils comprennent un peu mieux. Que les universités sont obligées de prendre tout le monde, quel que soit le bac. Vous avez critiqué APB, Dieu sait si vous avez raison, mais tout de même, ce tirage au sort que... Personne n'a osé toucher à ce tirage au sort pour le moment. Le ministre qui vient d'être nommé il y a un mois aurait pu mettre le pied dans la fourmilière et dire... on se débrouille autrement, mais on supprime ça. Or, on n'a pas osé, de peur d'avoir, au mois de juin, 1 million de personnes dans la rue. Ensuite, on ne s'occupe pas d'insertion professionnelle, sauf rarissime cas dans les petites universités, genre La Rochelle. Les universités des coins morts de la vie universitaire française sont souvent les meilleures en matière d'insertion professionnelle. Il faut les en féliciter. Et enfin, la catastrophe de la loi LRU, c'est qu'elle a aggravé la loi Savary et qu'elle a mis la gestion des universités entre les mains des syndicats étudiants, de personnel administratif et d'enseignants, qui sont les moins concernés par ce qu'est véritablement la vie universitaire. Et je trouve que c'est une véritable catastrophe. Donc j'ose espérer, comme vous l'avez laissé entendre, que le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Enseignement supérieur vont vous écouter, qu'on va secouer les vaches sacrées, qu'on va les sortir du chemin et enfin mettre l'université française sur la voie de ce que devrait être tous les établissements d'enseignement supérieur de France. Les grandes écoles, on peut leur faire des reproches. Vous avez très bien parlé des grandes écoles. Mais dans l'ensemble, elles existent à l'échelle mondiale, tandis que les universités n'existent pas à l'échelle mondiale, même s'il y a des chercheurs très performants. Voilà. Mais c'est une question, à peine une question. Enfin, c'était plutôt une réaction à votre premier éloge appuyé
de Valérie Pécresse. Oui. D'abord, vous savez, je ne soutenais pas, comme on l'a été rappelé tout à l'heure, d'accord, donc ça n'a pas... Mais je pense qu'il y a eu, comme ça a été très courageux, je pense, d'initier cette réforme. Vous savez, il y a toujours les pionniers de quelque chose. Au début, voilà, on commence les choses et puis ça marche pas très bien, mais il fallait donner un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Et ça a été quand même le mérite du débat à l'époque.
Ça fait 10 ans.
Oui, oui. Mais c'était la première fois, d'abord, qu'on reconnaissait que l'université devait être une priorité. C'était, avant, on le disait pas. Non, mais maintenant, ça paraît évident. Mais c'était pas, et que, on dit, mais il faut de l'autonomie. Et il y a eu d'abord la LRU. Vous êtes, je suis totalement d'accord, je l'ai mentionné d'ailleurs. C'est-à-dire que c'était une autonomie très incomplète. Et étant incomplète, c'était pire que tout. C'est un peu comme l'euro. Vous faites l'euro et, sans avoir la zone euro bien gouvernée, c'est peut-être pire qu'avant. Mais en même temps, on sait vers où on veut aller. Mais, il y a eu après la commission du grand emprunt. Il y a eu les IDEX. Et là, ça a été une louche de plus, quelque part. C'est-à-dire que, moi, j'étais dans le jury IDEX le premier. Tout d'un coup, les grandes écoles devaient parler avec les universités pour essayer de constituer des projets cohérents. Et les gens ne se parlaient pas avant. C'est-à-dire que c'est ça qui était bien. C'était que dans cette période, il y a eu des chocs culturels. Voilà. Il y avait une espèce de système atrophié et il fallait indiquer des directions. Mais c'est vrai qu'au début, souvent quand on passe d'un paradigme à un autre, au début, c'est moins bien que ce qu'il y avait avant. C'est comme les grandes technologies génériques. Au début, ça marche moins bien que ce qu'il y avait avant. Mais c'est toujours comme ça et c'est toujours un peu une courbe en J. On espère qu'elle est en J et pas en U. Hein, mais c'est un petit peu ça qui s'est passé. Donc il fallait poser ces principes, se rendre compte que le chemin c'était très incomplet, très imparfait, pour après dire il faut aller plus loin. Mais c'était de ce point de vue une étape désert. Mais je partage totalement cette idée, cette vision qu'il faut poursuivre. J'ai mentionné quelques directions et en fait ça m'avait l'air très convergent avec ce que vous avez exprimé.
Denis Kessler.
Oui, merci Monsieur le Président. Merci Philippe de cet exposé très complet. J'ai trois questions. Ta première équation, enseignement supérieur, innovation, croissance, est vraie, mais tu n'as pas évoqué quand même le fait que, à mon avis, la France est un des pays dans lesquels le divorce entre le monde de l'entreprise et le monde de l'université est sans doute maximum. Tu as cité la Suisse, pour ne pas citer les États-Unis, entre le Polytechnique de Zurich et le monde industriel suisse, c'est un continuum complet en matière de financement, de carrière, de gestion des projets. Et je trouve que là, c'est quand même une tâche aveugle de notre pays que d'avoir deux mondes qui sont restés disjoints, très largement disjoints, pour ne pas dire de temps en temps hostiles l'un à l'autre. Ça, c'est une question sur laquelle... Est-ce que c'est les chaires d'université, les chaires d'entreprise dans les universités? Est-ce que c'est des réformes du financement de l'université dans lesquelles il y aurait une place pour les uns? C'est une question sur laquelle je trouve il faut la traiter. Et je pense que ça nous remettra plus rapidement au goût, au benchmark international. La seconde question, c'est vraiment... J'aimerais en venir en amont de ta remarque sur nos choix collectifs. Tous tes constats sont vrais. Comment ce pays, a priori intelligent, qui a une histoire du savoir assez exemplaire, et comment peut-on avoir autant de majorités qui se succèdent, qui connaît ton constat? Qui sait que l'enseignement supérieur, le capital humain, comme disait l'économiste, est une des clés de la croissance, et sans doute à terme de la compétitivité, incontestablement de la productivité, que sais-je encore. Comment se fait-il que, majorité après majorité, c'est des tout petits pas, à l'échelle de l'histoire, alors on s'en réjouit, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas arrivé à être au diapason de l'histoire, Alors que tous les benchmarks sont là, il suffit de regarder les classements comme tu l'as fait. Je veux dire, donc, on sait ce qui se passe dans les autres pays. Ça, c'est une question que je n'arrive pas à traiter. Depuis 1960, les dépenses, donc, pourcentage du PIB de l'enseignement sont constantes et les dépenses de retraite ont été publiées par 250%. C'est un choix collectif. On n'a pas choisi la jeunesse, on a choisi l'autre côté de la pyramide des âges. Comment est-ce qu'on va arrêter ceci et redonner la priorité, j'allais dire, à la formation de jeunes générations? Et tu es conseiller du prince, de grâce, Philippe, conseille le prince. Troisième et dernière question, je suis désolé, président, je suis un peu long. J'ai une troisième question. Tu as des pudeurs de jeunes filles au mot sélection. Le tirage au sort, je rejoins Jean-Robert, est une aberration historique. Est-ce qu'on imagine un employeur qui va tirer au sort les responsabilités dans une entreprise en disant, finalement, je ne sais pas qui choisir, et je tire au sort? Est-ce que l'État tire au sort les responsables quand il confie des directions d'administration publique? Mais c'est une aberration. C'est la première priorité. C'est de supprimer ceci et de mettre le mot sélection. Alors, tu as orientation, je sais bien. Mais non, il faut trancher ces questions. Il faut revenir à une méritocratie. C'est une valeur républicaine qui fonctionne depuis plus de deux siècles. La méritocratie est un axe fondamental qui permet aux gens et aux uns et aux autres de pouvoir se classer, de se valoriser et de progresser. Donc, sur ce troisième point, aussi convainc le prince que ce mot sélection soit désormais accepté. Il faut casser un tabou pour revenir à des valeurs qui sont des métriques que tout le monde comprend et qui sont acceptées dans le monde entier.
Philippe, alors, je vais essayer d'aller. Donc, je ne peux pas faire justice à toutes vos questions dans le laps de temps qui est imparti. Mais je vais répondre brièvement. Sur les divorces entreprises, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que, par exemple, la mise en place de boards extérieurs, de conseils d'administration où les entreprises participeraient, ça serait quelque chose qui contribuerait à rapprocher. Je pense également que aux États-Unis, le mécénat est très développé. Chez nous, il est très balbutiant, le mécénat. Alors, c'est vrai que souvent, les gens disaient, on paye trop d'impôts. Mais si on fait une réforme fiscale, et là, il va y avoir il est annoncé, ça c'est aussi quelque chose pour lequel j'ai poussé personnellement, de réformer la taxation du capital et l'ISF, etc., de réformer la fiscalité, d'aligner la fiscalité française sur, disons, les bonnes pratiques d'Europe du Nord, eh bien là, tombe un argument contre l'idée du mécénat. Voilà. Donc je crois qu'il y a, il y a certaines choses qui peuvent être faites. Je crois qu'il, voilà, on dit en anglais, it takes two to tango, quoi. Il y a des pas que l'université doit faire, puis il y a des pas également que les entreprises font déjà, d'ailleurs. Il n'y a pas qu'elles doivent, elles commencent déjà à faire beaucoup de choses. Sur le deuxième chose, sur les majorités, pourquoi ça ne s'est pas passé? Parce que je crois qu'en France, il y avait toujours cette espèce de succession de majorités d'un côté et de l'autre. Et quand une réforme était proposée par un camp, même les réformistes de l'autre camp disaient non. On a vu ça avec les lois Macron, je veux dire, il y avait des gens... Et si vous voulez, quelque part, ça a été une autre initiative qui était quand même très bonne du quinquennat précédent de Sarkozy, c'était la création de la commission Attali. La commission Attali, vous aviez des gens, des réformistes, du centre-droit, du centre-gauche, hein, qui étaient ensemble, qui disaient, bon, il faut qu'on s'en sorte, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et on peut avoir des nuances sur la fiscalité, sur autre chose, mais l'idée, c'est de dire, on est en train de sombrer petit à petit, et il faut qu'on s'en sorte. Et je crois qu'on rentre, l'espoir, c'est qu'on soit sorti de cette logique, voyez, d'opposition droite-gauche, etc., et qu'on se dit, bah, maintenant, les réformistes se mettent ensemble, d'une manière ou d'une autre, chacun se le fait à sa façon, pour aller de l'avant. Voilà. Donc, je crois que, et ça me rend optimiste. Voilà. Il y a différentes façons de le faire. Chacun trouvera la manière. Et je suis pas dans l'économie politique de la chose. Mais je crois que là, il y a peut-être quelque chose un ressort nouveau qui peut permettre. Et sur la sélection, oui, c'est de la sémantique, on parle de la même chose. On est contre le tirage au sort et pour la mise en place de systèmes où il y a, le mérite et les préférences jouent. Voilà. Donc après, on peut appeler ça du terme qu'on veut.
Bertrand Collomb.
Ma première question rejoint un peu celle de Denis Kessler, mais sous un angle un peu différent. Vous avez insisté sur le fait que l'autonomie était un des indicateurs de succès des universités dans les autres pays. C'est, on pourrait dire, la même chose d'ailleurs des établissements d'enseignement secondaire ou primaire. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans toutes les études auxquelles j'ai soit participé, soit accédé, c'est que cette notion d'autonomie continue, sauf s'il y a eu des évolutions de l'opinion publique que je ne connais pas, continue à être extrêmement mal acceptée par l'opinion publique française, qui voit dans l'uniformité la garantie de l'égalité. Alors qu'il est évident pour tout le monde que l'uniformité crée des inégalités, et en tout cas que l'uniformité ne permet pas l'excellence, il y a beaucoup de nos concitoyens qui ne le comprennent pas. Même à des niveaux élevés, un homme politique qui, jusqu'à il y a quelques jours, était garde des Sceaux, et qui a été ministre de l'Éducation, me disait un jour, quand il était entendu par une commission à laquelle je participais, autonomie des universités. Non. D'ailleurs, je ne crois pas aux universités. Je crois à l'université avec un grand U. Et je pense qu'il faut que un étudiant à Angoulême ait les mêmes chances qu'un étudiant à Paris. Donc, au-delà, moi je pense qu'il y a quelque chose d'assez profond qui va au-delà des clivages politiques. Et malheureusement, le fait que les réformistes de centre-gauche ou de centre-droit se retrouvent sur le programme que vous avez indiqué, que vous avez présenté, ne nous donne pas, me semble-t-il, une garantie que ce programme va avoir une acceptation profonde dans l'opinion. Encore une fois, sauf si les choses ont évolué, parce que mes informations datent quand même d'il y a quelque temps. Donc ça m'intéresserait de savoir si l'opinion évolue. Et si l'opinion n'évolue pas, est-ce que les hommes politiques, avant de prendre des mesures, ne devraient pas essayer de mieux expliquer pour faire évoluer cette opinion? Et ma deuxième question est reliée à la première, sur université, grande école. Je pense que le principal problème actuellement du rapprochement entre université et grande école, auquel je suis favorable en principe, parce que c'est vrai que avoir un pays qui mise tout sur ses grandes écoles et néglige son université serait une catastrophe. Mais c'est la gouvernance. Vous ne pouvez pas mettre ensemble des écoles qui ont une gouvernance à peu près correcte avec des universités qui ont une gouvernance défaillante. Le président Sarkozy a voulu forcer ça. Il s'est opposé à un certain nombre d'initiatives que les grandes écoles voulaient prendre, et il a forcé le rapprochement régional. Exemple, Orsay. Alors il a créé cet IDEX, parce que finalement, avec l'idée qu'avec un peu d'argent, on fait faire beaucoup de choses aux gens qui n'en ont pas, et surtout quand les universités ont très peu de budget de fonctionnement, en leur donnant quelques millions supplémentaires, on a espéré qu'ils pouvaient faire des choses géniales. Mais il y a eu une période de faux semblants, auquel le jury IDEX, d'ailleurs, s'est opposé en disant « Vous faites semblant ». Et puis quand on arrive au dur, et ben même à Orsay, la Polytechnique, dont vous avez célébré les évolutions, et je crois que c'est vrai, commence maintenant à s'opposer, à être en limite, parce que la gouvernance, c'est comme la monnaie dans la loi de Gresham, la mauvaise gouvernance chassera la bonne. Donc comment peut-on, si on n'attaque pas le problème de la gouvernance des universités, résoudre ce problème, université grande école, rapprochement que j'appelle personnellement de mes voeux.
Philippe Aguillon.
Merci de le rappeler. Donc, évidemment, d'abord, la première chose que vous avez mentionnée, c'est que l'éducation primaire, quand je dis il faut donner plus d'accent, mettre plus d'accent sur le secondaire, ça ne veut pas dire déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est pas dire mettez moins d'accent sur le primaire. Le primaire, le secondaire, c'est le socle sur lequel vous bâtissez une éducation tertiaire de qualité. Donc, mais c'est vrai qu'on sait que quand vous êtes un pays en rattrapage, d'avoir des très bonnes écoles graduate, c'est pas fondamental. On peut très bien vivre sans. Et nous, on a vécu très bien sans des écoles très très bien financées pendant la période des Trente Glorieuses. Mais ça devient, quand vous devenez vraiment une économie d'innovation, ça devient alors très important d'avoir des écoles graduées de qualité. La deuxième, sur l'uniformité, je crois qu'il y a deux choses à opposer. Une chose, il y a l'idée d'égalité des chances, d'égalité d'opportunités. Je crois que ça, c'est important. On parle beaucoup maintenant, moi j'ai beaucoup enseigné au FMI que Jacques a présidé, et sur la notion de inclusive growth. Je crois beaucoup dans la inclusive growth, c'est-à-dire la croissance, mais personne n'est c'est sur le bord de la route, et tout le monde peut rebondir, et tout le monde a sa chance. Alors évidemment, on n'est pas tous pareils, on n'aime pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes talents dans les mêmes choses, mais il faut que ce soit, je crois que, et il y a eu des études récentes par un collègue d'Harvard qui s'appelle Alesina avec une autre collègue, en montrant que l'inégalité expose tout le monde, vous voyez, l'idée d'accepter de ne pas gagner la même chose, et d'autant mieux accepter que vous avez l'égalité exempte, et que vous avez une vraie mobilité sociale. Et donc maintenant, on s'intéresse beaucoup à l'idée de mobilité sociale. Et je crois qu'il faut vraiment s'attaquer, se dire, voilà, comment je provoque de la croissance. Et c'était vraiment ça l'objet de mon intervention. Comment je mets de la pointe dans la recherche, dans tous les domaines, et en même temps, je stimule la mobilité sociale. Je crois qu'on accepte beaucoup plus de ne pas être comme les autres si on sait qu'on a toujours une deuxième chance, qu'on peut rebondir, les passerelles dont j'ai parlé tout à l'heure. Je crois que c'est très important. Et finalement, les grandes écoles universités, c'est ce que j'ai souligné tout à l'heure, c'est qu'il faut évidemment un rapprochement des gouvernances, d'où l'importance de ces boards et de ces... parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, s'il n'y a pas d'amélioration dans la gouvernance des universités, le rapprochement avec les grandes écoles ne pourra pas s'opérer. Et donc je crois que c'est un levier essentiel du rapprochement.
Jean-Claude Casanova.
Je suis entièrement d'accord avec les analyses et les conclusions de M. Aguillon. J'aurais simplement une remarque et un commentaire à faire. Ma remarque, c'est que je serais moins optimiste sur le problème des grandes écoles, parce que les grandes écoles ont été une très grande réussite française. Je dis toujours qu'en 1900, les deux plus grands savants français, à savoir Pasteur et Poincaré, sont issus des grandes écoles. D'ailleurs, Pasteur étant refusé par la faculté de médecine et même par l'Académie de médecine, qui a nié la qualité de ses découvertes. Donc, c'est grâce aux grandes écoles, la science française a survécu à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle par rapport à l'université allemande. Mais les grandes écoles ont commis une erreur, c'est-à-dire l'attrition dans leurs élèves. En 1900, il y a 1000 bacheliers Mathelem. Sur 1000 bacheliers Mathelem, il y en a 300 qui entrent à l'école polytechnique. Calculer aujourd'hui le taux de sélection à l'école polytechnique, il a été multiplié. Il y a aujourd'hui 45 000 bacheliers scientifiques et il en rentre toujours 300 à l'école polytechnique. Un peu plus, mais enfin, en gros, si vous comparez au MIT ou à Caltech, c'est-à-dire deux institutions constituées à la fin du 19e, au début du 20e, pour former des ingénieurs, elles ont eu des taux de croissance plus grands qui leur ont permis une masse, si vous voulez, plus favorable à la recherche scientifique. Mais c'est une remarque sur le rôle des grandes écoles. Il y a d'ailleurs un classement que l'on ne célèbre pas assez en France et qui est triomphant pour la France. Il est d'ailleurs préparé par l'École des mines. C'est le classement qui énumère, qui cherche à l'intérieur des conseils d'administration des plus grands, et des dirigeants des plus grandes entreprises le pourcentage de Français issus des grandes écoles. Dans ce classement-là, la France est en tête. C'est-à-dire que le système des grandes écoles français fournit au monde le plus gros pourcentage de dirigeants d'entreprise, ce qui prouve d'ailleurs que nous ne sommes pas infirmes intellectuellement et que là où le système fonctionne, personne ne l'a voulu. Il n'y a aucun bureau d'aucun ministère qui a décidé que la France formerait des dirigeants de grandes entreprises. Mais malgré tout, le système l'a produit. Mais j'en viens maintenant aux universités, au système français, pour, si M. Aguillon me le permet, d'essayer de dire pourquoi le problème de l'autonomie est un problème grave en France et essentiellement un problème politique. Parce que les classements d'aujourd'hui jouent le rôle de la guerre de 1870 sur l'université française. Après la guerre de 1870, on a décidé de créer des universités qui n'existaient pas. Dans les lois de Jules Ferry et dans les lois de 1892, on parle déjà d'autonomie. La loi d'Edgar Faure, 68, parle d'autonomie. La loi Savary parle d'autonomie. Les deux décentes lois parlent d'autonomie. Et il y a deux enquêtes, une qui a été faite en 2008 et l'autre en 2016, qui montre que, quel que soit le critère retenu, les universités françaises sont les moins autonomes d'Europe. Nous sommes derniers dans tous les modes de classement. Autonomie pour la propriété des locaux, autonomie pour le recrutement des enseignants, autonomie pour le recrutement des étudiants, etc., etc. Quels que soient les critères, nous avons les universités les moins autonomes d'Europe et sans doute, à certains égards, du monde. Alors, pourquoi y a-t-il une telle peur à l'égard d'autonomie? C'est qu'à l'arrière-plan de l'autonomie, les vrais termes réels qui découlent de l'autonomie sont la sélection, la spécialisation, la compétition. Et ce dont on a peur, c'est de la sélection, de la spécialisation et de la compétition. Parce qu'incontestablement, s'il y a une vraie autonomie, il y a nécessairement spécialisation, compétition, sélection, nécessairement une hiérarchie des établissements, nécessairement une hiérarchie des disciplines, nécessairement une hiérarchie des enseignants, nécessairement une hiérarchie des étudiants. Et ce que le système français refuse dans son tréfonds idéologique, si vous voulez, ça a commencé en 1792. Quand on a supprimé les corporations, on a créé un système qui devait être uniforme. Et nous courons après l'uniformité et nous obtenons la médiocrité. C'est si j'ose dire, la trame historique du système universitaire français. Alors regardez-le dans le détail. L'autonomie, ça veut dire la réalité de la gouvernance. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme système de gouvernance? Nous avons l'extension aux non-professeurs du pouvoir des professeurs. C'est-à-dire nous avons le corporatisme. Alors que tous les systèmes extérieurs font gouverner les universités par des gens dont la spécialité est le gouvernement de l'université et l'indépendance par rapport à ceux qui composent l'université. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, l'attribution des crédits. En France, une grande partie de l'attribution des crédits se fait par des organismes dont les membres sont élus par les futurs attributaires de crédits, ce qui aboutit inévitablement à une distribution du crédit qui ne se fait pas par l'excellence, mais qui se fait par la proportion. Continuons la sélection des étudiants et la sélection des professeurs. Là aussi, nous tombons dans les mêmes défauts. Et prenez l'exemple simple des droits d'inscription. J'ai vu que le président de la République élu, dans son livre, timidement, dit que les universités pourront décider des droits d'inscription à condition d'en donner une partie sous forme de bourse, etc. Attendons de voir si la timidité se transforme en courage. Regardez le problème des droits d'inscription. C'est une disposition budgétaire de 1951 ou 52 qui dit c'est le ministre qui décide des droits d'inscription. Logiquement, la loi de 68, toutes les lois auraient balayé cette disposition qui n'est même pas d'ordre législatif. Il suffit de dire au Conseil constitutionnel, considérer que ce n'est pas législatif et laisser les universités autonomes. Ça n'a jamais été modifié. En 1986, l'illustre de Vaquet a provoqué le séisme que l'on sait, parce que lui, il voulait modifier les droits d'inscription. Au lieu de dire les universités sont libres, il voulait fixer les droits d'inscription. Depuis 1986, l'acteur constitutionnel fondamental de l'université française n'est pas le ministre, c'est le manifestant UNEF. Il faut appeler les choses par leur nom. Celui qui gouverne effectivement l'université, c'est le manifestant UNEF. Celui qui a gouverné Madame Pécresse dans la loi, c'est le manifestant UNEF qui a imposé la composition des conseils d'université et le choix du président sans intervention des personnalités extérieures. Donc ce système-là, si vous voulez, il repose, il ne pourra être modifié ou il ne pourra être détruit qu'en empruntant les voies de réforme qu'indique M. Aguillon et auxquelles je souscris totalement, à condition que le pouvoir politique ait le minimum de discernement et de courage que ces réformes impliquent.
Philippe Aguillon.
Oui, alors là, je souscris à tout ce que vous avez très bien exprimé. Je vais répondre sur quelques points, parce que il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, et le temps nous est limité. Mais sur les grandes écoles, je crois beaucoup, si vous voulez, vous disiez tout à l'heure, les grandes écoles ont trop peu embauché. C'est pour ça que je crois que c'est important d'insérer les grandes écoles dans des ensembles universitaires où on peut recruter en première année ou plus tard.
Plus tard, bien sûr.
Et ça aidera, justement. Parce qu'on veut que la culture des grandes écoles, eh bien, se répande. Voilà. Donc je crois que là, ça aidera de ce point de vue-là, à leur donner plus d'influence. Ensuite, il y a sur l'autonomie. Vous avez tout ce que vous avez dit sur le fait que l'autonomie était très. Il fallait déjà parler d'autonomie. C'était déjà important. Mais c'est vrai que l'autonomie, sans autonomie d'embauche et sans vraie autonomie budgétaire, c'est un vain mot. Et ça, mais s'il fallait s'en rendre compte, c'est des fois il faut faire l'expérience. C'est très intéressant ce que vous mentionnez quand vous avez fait le parallèle. Vous avez dit ce dans ça a donné Jules Ferry. Moi, j'ai fait une étude là-dessus, justement, et j'ai montré que c'est pas seulement vrai en France, c'est vrai dans d'autres pays. J'ai fait ça même en étude économétrique. C'est-à-dire que perdre une guerre, ça incitait à investir dans l'éducation. Alors maintenant, la chance, c'est qu'on n'a plus besoin de faire la guerre militaire, la guerre économique, disons, la concurrence économique joue un peu ce même rôle. Et c'est ça qu'on espère, c'est-à-dire que dire, voilà, on veut être dans le peloton de tête et être un pays parmi les plus développés, ben, on doit réformer notre système d'éducation. Mais c'est vrai qu'il y a eu tout à fait cet effet. Sedan implique Jules Ferry et maintenant on espère que c'est la concurrence économique qui va jouer ce rôle. Alors vous avez mentionné sélection, compétition. Quand je disais incitation, c'est ça que je voulais dire. Vous avez exprimé autrement les termes que je voulais dire, mais il faut effectivement, il faut spécialisation, il faut une orientation, il faut en tout cas changer sélection, vous le mettez comme, et puis avoir une forme de concurrence. J'ai indiqué un résultat qui disait que plus on se repose sur des bourses pour lesquelles il y a concurrence, plus la performance est bonne. Le corporatisme, je crois qu'il y a tout le problème de la démocratie ou de la pseudo-démocratie dans l'université. Les étudiants pensaient que la démocratie, c'était eux de choisir les professeurs et les présidents. Et je crois que la démocratie, c'est plutôt d'avoir le droit d'évaluer ses profs. Par exemple, ça, c'est un droit de base. Vous savez que moi, quand j'ai enseigné beaucoup à l'étranger, j'en enseignais également. On était évalué par nos, et c'est très important d'être évalué parce qu'on pouvait améliorer, on se soumet à l'évaluation. Ça, c'est un droit fondamental. Le droit d'information dont j'ai parlé tout à l'heure, avec le portail de compar et le droit d'évaluation. Je pense que ça, c'est beaucoup plus important, il faut que les étudiants comprennent, que de décider qui va être le président de l'université où ils n'ont aucun élément pour le décider. Donc je crois qu'il y a, tout ce débat sur la pseudo-démocratie universitaire qu'il faut avoir. Ils ont montré qu'ils peuvent avoir des droits qui beaucoup plus importants que ceux qu'ils ont maintenant et beaucoup plus importants pour la réussite de l'université. Il y a tout le débat sur les droits d'inscription. Alors là, je crois qu'il faut y aller. Je comprends tout à fait l'idée. Vous voyez, moi j'y vais de manière très prudente. Quand j'ai fait le rapport, j'ai écrit le rapport pour Valérie Pécresse, est-ce qu'on va parler des droits ou pas? Je savais que si j'en parlais, c'était terminé. Je ne pouvais plus parler de gouvernance, je ne pouvais plus parler de rien du tout. Donc je me suis dit, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soulever de problème. Par exemple, que les étudiants étrangers ou qui ne sont pas membres de la communauté européenne, l'Union européenne, payent des droits. Par exemple, c'est ce que les Suédois ont fait. Les Suédois, ils disent voilà, les étudiants qui ne sont pas de l'Union européenne payent des droits d'inscription. C'est déjà un premier pas. Mais je crois qu'il faut y aller très prudemment parce que, vous savez, nous sommes des grands spécialistes en France des usines à gaz, comme vous le savez. Et donc, et vous avez vu qu'en Angleterre, les réformes qui avaient été faites dans le sens de dire des emprunts, etc., ça a causé beaucoup. Il faut faire très, très attention. C'est un sujet trop important pour le traiter à la légère. Je crois que c'est un sujet qu'il faut aborder, mais il faut l'aborder avec énormément de prudence parce qu'un faux pas, là-dedans, on tue le débat. Et il est trop important pour qu'on le... Donc c'est pour ça que... Non, mais ce n'est pas une critique. Hein. Je vous dis que moi, une critique à moi-même. C'est pour ça que j'ai toujours été très, très prudent. Je marche sur des œufs quand je parle de droit d'inscription, tout en reconnaissant l'importance de ce sujet.
Voilà, il nous reste 7 questions pour 25 minutes et je donne la parole à Daniel Anglaire.
Merci, Monsieur le Président. En fait, Bertrand Collomb a dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Ça a été complété par Monsieur Casanova, mais je vais quand même rebondir sur 2-3 choses qui ont été dites à l'instant. L'évaluation, je vous informe, mais vous le savez certainement, Monsieur Aguillon, qu'elle est inscrite dans la loi depuis des années et des années. Et mon ancien président, Jean-Robert Pitt, m'a chargé à Paris 4 Sorbonne d'instaurer un système d'évaluation. On a passé des semaines en discussion, on a mis sur pied un logiciel extraordinaire, etc. Et puis il n'en est rien sorti parce que, effectivement, ce n'est pas encore dans l'air du temps. Il y a une question de culture et de pédagogie, exactement dans la ligne de ce que disait M. Collomb. La sélection, je rappelle aussi que la sélection n'est pas nécessairement synonyme de l'élite. On peut être choisi par un master professionnel de communication scientifique ou je ne sais quoi, être très fier d'être parmi les 30 étudiants choisis. On n'a pas besoin de se dire qu'on est extraordinaire. On est simplement choisi et il y a un contrat moral qui s'établit instantanément entre l'équipe enseignante qui a monté donc le diplôme et les 30 étudiants qui finalement ont été retenus. Bon, mais tout ça, ça paraît assez évident. Sur l'université, l'unité, il est, me semble-t-il, indispensable que nous revenions en France à l'idée que l'université, sous ce titre-là, est le lieu unique de l'enseignement supérieur et de la recherche. On a beaucoup parlé des grandes écoles, et M. Collomb, notamment, a écrit un remarquable rapport sur cette question. C'est une question qui est bien comprise, je crois, par la plupart des gens. Vous n'avez pas mentionné, personne ici n'a mentionné, le rôle à la fois salutaire et toxique du CNRS, de l'EHESS, de l'EPHE, etc., etc. Pensez à un pays, mais des pays qui ne sont pas à l'avant-pointe, comme, je ne sais pas, l'Espagne ou le Portugal, où ben, tout ça se passe à l'université. Une ville est fière d'avoir son université. Elle ne sait pas qu'elle a aussi un institut de recherche du CNRS, de l'EPHE, de l'INSERM, etc. Il faut que l'université devienne, redevienne le lieu où ces choses se font. Et à cet égard, je dirais que de même que donc les grandes écoles ont été créées pour pallier, donc comme vous l'avez très bien dit, les maux de la vieille Sorbonne, il en est exactement de même du CNRS, de l'EHESS, etc. Ce sont des médicaments extraordinairement puissants qui ont sauvé le malade, qui ont sauvé la physique expérimentale, qui ont sauvé la biologie moléculaire, qui ont sauvé l'économie, qui ont sauvé toutes sortes de choses, mais qui... appliqués sur une période trop longue, ont des effets toxiques, exactement comme la cortisone. À un moment, il faut se libérer de la cortisone et retrouver un système sain. Et la toute dernière chose que je voulais dire, c'était au sujet des enseignants, donc la pédagogie vis-à-vis du corps enseignant. L'idée d'une propédeutique, vous l'avez rappelé, est très ancienne. Mais moi, je me souviens, je suis assez vieux pour me souvenir du moment où on a essayé d'installer des premiers cycles pluridisciplinaires. Un peu à l'américaine ou à l'anglaise. Ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que chaque enseignant dans sa discipline disait « Comment vous allez me priver des heures indispensables pour former en philosophie, en lettres classiques, en mathématiques, etc. » Et vous avez parlé du CNU. le carcan des disciplines, la division disciplinaire maintenue par les CNU est également un obstacle absolument désastreux qu'il faut d'une manière ou d'une autre desserrer. Merci.
Philippe Aguillon.
Tout ce que vous avez dit, et en particulier sur le fait que l'université est le lieu où doivent se réunir les centres de recherche, les grandes écoles. Voilà, à Harvard, vous avez la Kennedy School of Government, vous avez la Business School, vous avez l'école de médecine, et voilà, et tout ça est dans un ensemble universitaire avec une politique universitaire. Et je crois que c'est très important. C'était l'IDEX, c'était un peu ça quand même l'idée, hein, donc d'aller dans cette direction. Et ce que vous avez dit sur le, enfin, je souscris à tout ce que vous avez dit, donc je ne peux. Vous avez bien mieux exprimé que je pourrais le faire moi-même.
Xavier Darcos.
Merci, Monsieur le Président. Je vais faire gagner du temps à notre assemblée parce que Jean-Claude Casanova a posé la question que je voulais poser de manière beaucoup plus argumentée en se fondant sur les textes, sur le mystère quand même de la puissance incantatoire de l'autonomie de l'université, puisque c'est le sujet le plus évoqué depuis une centaine d'années sans que ça ait jamais pu aboutir. Alors est-ce que c'est lié à notre histoire politique en général, ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'on a peur des mots? Et ça m'a beaucoup frappé, cher Philippe Aguillon, de ces temps, si j'admire votre travail, à quel point vous avez peur, par exemple, du mot sélection, vous avez à peine de prononcer. Je comprends vos scrupules, d'ailleurs moi-même été confronté à des difficultés avec l'opinion lorsque j'utilisais des mots comparables. Ben, Monsieur Gadry doit s'en souvenir. Mais on a évidemment quand même une peur de dire des choses, clairement. Et vous observerez que dans l'opinion, l'université, pour les utilisateurs, reste un lieu d'enseignement, et pour les universitaires, un lieu de recherche. Sauf que du coup, il est ni l'un ni l'autre. Et la difficulté que l'on voit à sa clé, qui a été évoquée plusieurs fois, qui était normalement, qui était enfin la réussite de cette fusion entre la recherche, les grandes écoles, Paris Sud, les entreprises financières, les collectivités qui créaient des ressources sui generis pour créer ce grand plateau, bah finalement quand même ça n'avance pas très vite, enfin pour être dans l'euphémisme. Donc, je le répète, Jean-Claude Casanova vous a posé cette question avec beaucoup de brio, mais c'est on n'a pas complètement eu la réponse quand même. Je ne sais pas s'il y en a une.
Philippe Aguillon.
Sur l'autonomie, c'est évident que sans autonomie budgétaire et d'embauche véritable, il n'y a pas vraiment d'autonomie. On est d'accord. Et que c'est dans ces dimensions-là qu'il faut progresser, quoi. Donc je crois qu'on est tous d'accord. Mais déjà, d'introduire l'idée qu'il fallait de l'autonomie, montrer que sans ces choses-là, ça ne marche pas, pour ensuite venir à l'idée qu'il faut ça également. Vous savez, des fois, il faut prendre les gens par la main et qu'ils fassent leur expérience. Parce que on peut, voilà, des fois, à vouloir aller trop vite, avoir des fois raison trop tôt, ça ne marche pas. Donc voilà. Et maintenant, je crois qu'il y a davantage de gens convaincus qu'il faut aller plus loin.
Georges-Henri Soutou.
Remarque, je trouve que ceux qui en ce moment font des études extrêmement poussées sur tous les problèmes que pose l'université que vous avez exposé dans le cas britannique, justement, sont les Anglais. Je ne développerai pas ce point, mais je recommande de lire le rapport de Russell Group qui évalue les principales universités britanniques et qui a ajouté au classement de Shanghai un autre critère qui est celui non pas de la recherche uniquement, mais qui a ajouté le critère de la qualité de l'enseignement, ce qui d'un seul coup a complètement bousculé le classement de Russell Group. On a appris avec intérêt que la London School of Economics et London University sont passés de la première catégorie à la troisième, d'un seul coup. D'autre part, j'ai toujours été frappé par le fait que l'enseignement supérieur helvétique, que je considère, enfin c'est subjectif, qui est globalement, à mes yeux, le meilleur dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, si on tient compte de tous les aspects, bien, et l'innovation. Vous avez fort opportunément rappelé que la Suisse est en tête. Et c'est celui qui comporte le plus faible pourcentage d'une classe d'âge à l'université, autour de 25%, même si c'est ça. Bon. Puis, troisième et dernière remarque, nous réfléchissons toujours en fonction d'un modèle universitaire issu du 19e siècle, qui me paraît quand même devenu maintenant largement, j'ai pas dit qu'il était dépassé, mais largement mythique. Bon, par exemple, en France, nous avons beaucoup discuté cet après-midi de la sélection. excusez-moi, l'enseignement supérieur se fait par l'argent, parce que les filières qui conduisent à un emploi avec une certaine sécurité sont celles qui, les écoles, enfin, établissements, ou même les filières, d'ailleurs, dans certains cas, sont celles qui sont payantes. Bon, Sciences Po, mais bien d'autres. Donc, on est dans la en totale hypocrisie. Voilà les remarques que vos très intéressants exposés, chers collègues, m'ont inspiré.
Philippe Aiguillon. Oui, je crois que c'est important ce que vous avez dit. L'excellence, elle est multidimensionnelle. Il n'y a pas que l'excellence en recherche. Et d'ailleurs, dans les IDEX, on a poussé, et d'ailleurs ça s'est fait petit à petit, l'Université de Lille, par exemple, elle est très bonne en recherche. On disait à l'époque, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, quand j'étais dans le jury, ils étaient très bons en matière de qualité d'enseignement. Et on peut être très bon en matière d'insertion professionnelle. J'ai mentionné quelques critères, des indicateurs d'insertion. On peut être excellent à différentes choses. Aux États-Unis, vous avez les Liberal Arts College, vous avez différents types de collèges. Être bon. L'excellence est multidimensionnelle et moi je pense que le système d'incitation qu'il faut mettre en place, il doit récompenser différentes dimensions de l'excellence. Certaines universités peuvent vouloir mettre l'accent sur la pointe en recherche, la recherche de pointe et d'autres peuvent vouloir dire mais moi je veux être excellent en pédagogie, je veux montrer être excellent que toute initiative pour améliorer l'excellence sur l'une ou l'autre de ces dimensions soit récompensée, soit encouragée. Et je crois que ça c'est très important. L'histoire de la multidimensionnalité de l'excellence et le fait qu'on peut être excellent à quelque chose. Tout le monde peut être excellent à quelque chose. Et on doit encourager les différentes institutions à être excellentes à quelque chose. La deuxième chose sur le système suisse, c'est vrai qu'il y a peu d'étudiants dans le système suisse. Il ne s'agit pas d'aller dans le système, de reproduire le système suisse. Mais par exemple, moi j'aime bien le système suédois. Moi, je trouve qu'il me convient assez bien. Souvent, j'embête les gens en disant que la Suède, c'est très bien. Mais je trouve que ça marche pas mal. Il y a les gens entrent à l'université. Il y a une sélection au sein de l'université. Puis il y a très vite, on oriente. Il y a peu d'échecs et on oriente et ça marche bien. Les Suisses reconnaissent le problème d'avoir trop peu de gens à l'université. C'est pour ça qu'ils mettent ces passerelles. C'est très récent la création des passerelles du court vers le long parce qu'ils ont compris qu'ils ont un problème de ce côté-là. Et donc ils essaient d'intégrer les formations courtes dans l'université. Justement, de la même manière qu'on parlait tout à l'heure d'intégrer les grandes écoles dans l'université. Donc voilà, différents pays venant de différents points. Essaie d'aller vers un petit peu la même chose. Marianne Bastide-Bruguière.
Bonjour, Monsieur le Président. D'abord, je veux vous dire que je partage tout à fait beaucoup de points de vue que vous avez exposés, que d'autre part, mes confrères ont déjà posé des questions qui correspondaient à ce que je voulais poser. Je voudrais dire simplement une chose. Je voudrais que vous preniez garde que dans votre discours public, vous n'opposiez pas tant l'université et les grandes écoles. C'est nocif. D'abord, parce que parmi les grandes écoles, il y a de grandes différences. Vous avez dit qu'on ne faisait aucune recherche dans les grandes écoles. À l'école normale supérieure, on a quand même fabriqué pas mal de prix Nobel, heureusement. Je dirais qu'il ne faut pas opposer les grandes écoles et l'université, éviter de le faire. Parce que d'abord, grâce à la loi Pécresse, elles sont effectivement maintenant dans des ensembles universitaires. Et je dois dire que j'ai vu, alors pour des établissements comme l'école pratique des hautes études, combien au bout de quelques années, cela avait eu un effet favorable. Et ça avait permis à l'intérieur de l'établissement de faire monter le pouvoir de gens éclairés, jeunes, dynamiques. Ça prend du temps. Mais ça se passe. Donc, je ne voudrais pas que vous opposiez les choses. Et d'autre part, il faut être conscient que partout dans le monde, il y a des établissements d'excellence. À Harvard, ce n'est pas tout Harvard qui est excellent. C'est certains endroits, certains départements. En Angleterre, Oxford et Cambridge, c'est certains collèges. Et en Allemagne, c'est pareil. Donc, la présence de foyers d'excellence, de monastères spéciaux, ça existe partout. Et donc, il ne faut pas casser les nôtres tant qu'on n'a rien pour les remplacer. Bon. D'autre part, je pense que dans l'éducation générale qu'on donne aux enseignants futurs, aussi bien pour le primaire, l'école maternelle, que pour des gens qui seront dans le secondaire ou l'enseignement supérieur, il faudrait développer une approche des buts de l'éducation, qui sont ceux que vous avez développés, c'est-à-dire la notion qu'il faudra de la mobilité et que c'est une bonne chose de changer d'emploi, qu'il faudra de l'innovation et qu'enfin qu'il y a différentes dimensions dans l'excellence. Or, moi, ce que je constate, c'est que actuellement, parmi les enseignants du primaire, ils sont très conscients de la question d'inégalité sociale, et en particulier des enfants qui étudient moins bien que les autres. Mais quand ils ont dans leur classe des enfants qui étudient plus vite, pour les parents, le drame, c'est de ne pas dire « mon enfant est génial », il ne faut surtout pas le dire. Il faut arriver à ce que, spontanément, le psychiatre, l'instituteur, remarque que l'enfant lit déjà à la maternelle et qu'il pourra sauter une classe. Et c'est très, très difficile. Ça me paraît quand même, ça n'existait pas du tout il y a 25 ans. Il y a 25 ans, on savait très bien qu'il y avait des enfants de tous les milieux, d'ailleurs, qui avançaient plus vite que les autres et qu'il fallait les aider, les soutenir. Beaucoup des élèves de l'école normale supérieure, ils avaient été repérés dans des écoles maternelles rurales par des instituteurs. Mais maintenant, les instituteurs ne savent plus ce que c'est que les grandes écoles. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à une sorte d'approche générale qui change la vision de l'éducation et de ses buts.
Philippe Aguillon. Donc vous avez dit beaucoup de choses importantes. Je vais juste, d'abord, loin de moi l'idée d'opposer. Je dis qu'en ce moment, il y a un contraste, si vous voulez, entre université et grandes écoles, mais il y a de très bonnes choses dans les grandes écoles, la gouvernance, la sélection, qu'on veut importer. Vous voyez, une culture qu'on veut importer. Donc, si vous voulez, l'idée des IDEX, d'ailleurs, c'était de permettre une hégémonie culturelle, s'il faut prendre un terme gramscien, plus grande des grandes écoles vers les universités, que les bons côtés des grandes écoles soient davantage. Voilà. Donc, au contraire,
le discours qu'il faut tenir, voilà. C'est dire notre enseignement a marché sur deux jambes.
Oui.
Et ces deux jambes sont utiles.
Et il faut les
réunir. On les garde.
Voilà. Mais c'est pas de supprimer.
Elles se rejoignent.
Voilà. L'idée, c'est pas de dire je supprime, c'est de dire qu'il y ait, disons, une fertilisation, qu'il y ait un mutuellement, voilà, que ce que l'université peut apporter d'un côté, voilà, que ça soit mis en commun, qu'il y ait rapprochement, créer des conditions d'un rapprochement qui profite à tout le monde. Et c'était un peu ça, ce que j'ai essayé de proposer. Ce que vous avez dit ensuite sur la sélection, je crois que c'est très important. Un des gros problèmes du système français, c'est qu'il n'y a pas de deuxième chance. Il y a très peu de deuxième chance. Vous avez mal dormi la veille d'un concours, ça peut vous poursuivre toute votre vie. Vous êtes mal classé et ça vous poursuit toute votre vie. Il faut un système où il y ait sans arrêt une deuxième chance et permettre aux gens de rebondir. Et je crois que ça, c'est très important. Et des systèmes qui veulent des fois sélectionner trop tôt, parce que des fois, l'intelligence se révèle plus tôt ou plus tard, différemment. Et il faut un système qui ne pénalise pas ceux dont l'intelligence se révèle autrement, plus tard, et de donner toujours une deuxième chance. Et ça, c'est un des gros problèmes. C'est que justement, la séparation grande école-université ne favorise pas la culture de la deuxième chance.
Mais maintenant,
trois
ça
questions.
Existe.
Marianne, je vous en prie, merci. Trois questions demeurent. Philippe Le Vilain pose la première.
Merci, Monsieur le Président. Je serai très bref, mais je la pose quand même pour ne pas toujours renoncer. Monsieur, vous avez affiné, précisé des choses qui méritaient. D'autre part, vous avez rappelé de mauvais souvenirs, notamment les réformes successives qui n'ont pas abouti et qui ont été quelquefois contradictoires. Je parle du CNU. Je vais poser une première question. Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir, sur les nouveaux goûts et les nouvelles appétences qui sont celles des futurs étudiants. J'ai entendu ce matin à RTL, pour ne pas citer la station préférée de notre confrère, que les étudiants ne voulaient plus, enfin beaucoup de jeunes ne veulent plus passer le permis de conduire. Ils ont d'autres moyens, d'autres choses, d'autres visées que celles d'acquérir ce papier qui coûte très cher. Plus sérieux, ne pensez-vous pas que la réforme du CNU, qui aujourd'hui est à l'envers, qui fait que la qualification et l'élection aboutit finalement au choix d'une université et d'une discipline, devrait revenir à l'envers, à savoir un CNU national qui véritablement ensuite dispatche des possibilités et confirme les élus. C'était l'ancien système. Aujourd'hui, il y a des clans qui utilisent avec des commissions spéciales des professeurs qui sont préélus. Enfin, dernière chose que je voulais vous demander, Ne pensez-vous pas que la multiplication des diplômes, qui est devenue maintenant un principe d'excellence, le fait d'être normalien, agrégé de lettres, Sciences Po, plus éventuellement l'ENA, est un facteur aggravant la situation des universités et des jeunes diplômés, même si c'est pour l'instant très parcellaire?
Philippe Aguillon.
Votre dernier point, excusez-moi, votre dernier point, je m'excuse.
La multiplication des diplômes.
Ah oui,
chez les, dans les élites.
Oui, donc le premier point, oui, c'est vrai que les yeux sur les permis de conduire, il y a maintenant, vous savez qu'on peut passer, enfin faciliter le permis de conduire par internet et puis avoir des formations plus larges. Donc il y a eu des progrès sur le permis de conduire, intéressant. Je crois beaucoup, si vous voulez, dans ce système où on responsabilise les universités pour l'embauche et on les soumet à évaluation et récompense. Vous voyez, je crois beaucoup que ce système-là. Il fonctionne ailleurs, c'est-à-dire que voilà, je peux décider si je prends des décisions mauvaises en matière d'embauche, et eh ben je paierai le prix parce que je n'aurai pas les performances dans différentes dimensions, puisque je ne regarde pas l'excellence sur une seule dimension. Ben à ce moment-là, ça en sera affecté, et à ce moment-là, eh bien l'université, eh ben on paiera les conséquences. Je veux dire, je crois que ça, c'est une culture responsabilisée. C'est vraiment l'idée de responsabiliser et d'inciter. Je crois que le nouveau président, un peu cette même idée aussi dans la relation qu'il va avoir avec les collectivités territoriales, c'est-à-dire de dire à la fois je vous responsabilise, je vous donne un contrat, mais en même temps j'attends des choses de vous. Et moi je crois que cette culture de responsabilité, d'incitation est une culture à laquelle je souscris. Je crois qu'on peut faire beaucoup par ce biais-là. Il y avait un côté très infantilisant dans notre système, et je crois qu'il faut traiter les gens comme des adultes, mais en même temps on les responsabilise et ils savent que s'ils produisent des bons résultats, il y a des récompenses qui viennent, quoi. Donc voilà un petit peu sur le nombre de disciplines. Je crois que chacun décide de ce qu'il veut faire. Je crois que si par exemple l'insertion professionnelle devient un critère d'excellence, les universités se diront, je dois aussi m'assurer que je vais donner des enseignements qui vont mener quelque part. Et qu'également, dans la mesure, et je crois que l'information, ce que je disais tout à l'heure, que les étudiants aient accès à des informations sur les débouchés des formations, ça aussi, ça incitera, à mon avis, les universités à se concentrer sur ce qui produit de la recherche d'excellence et ce qui produit des débouchés professionnels. Voilà, je crois que. Donc l'idée, il faut l'information et les incitations. Je crois beaucoup que cette combinaison-là, mais en même temps, laisser l'initiative, je crois que cette combinaison-là vous mène très loin.
Jacques de la Rosière.
En fait, Jean-Claude Casanova a dit beaucoup mieux que je n'aurais su le faire ce que je voulais dire. Et je vais juste dire une phrase. Je ne comprends pas comment, dans le fond des choses, la notion d'autonomie et de bonne gouvernance peut s'appliquer à des institutions qui ne sont pas maîtresses du flux entrant des élèves. Vous avez dit 60% échouent au bout de la troisième année, et c'est un handicap que d'être obligé d'accepter ça, qui, à mon avis, rend très difficile les très bonnes idées en matière de gouvernance que vous avez indiquées. Et donc... Personnellement, je ne vous demande pas de répondre d'ailleurs à ça, parce que je n'apporte pas ici vraiment une question, j'apporte une interrogation que je me fais en tant que citoyen. Alors voilà.
Oui. Donc, écoutez, non, je suis tout à fait d'accord. Il faut que. C'est pour ça que je crois qu'introduire la sélection au mérite, les préférences et le mérite. Eh bien, c'est une et donc j'ai mentionné tout à l'heure des travaux de collègues qui ont travaillé comme ça pour les hôpitaux également, mais surtout pour les écoles. Il y a eu beaucoup de travaux sur les écoles à New York, voyez, et qui ont montré comment on peut avoir des systèmes d'allocation où les universités, les écoles ont leur mot à dire et les étudiants expriment leurs préférences et le mérite joue un rôle important. Je crois que c'est une façon d'aller vers le, mais je crois qu'une manière de le vendre politiquement en France, c'est de dire il y aura une place pour chacun, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que tout le monde sera choisi quelque part, voilà. Mais il y aura du choix et ça ne sera pas du tirage au sort, voilà. Il faut un système où on dise, voilà, personne ne sera laissé sur le bord de la route, mais il y aura du choix et le mérite jouera un rôle, voilà. Je crois que, et ça, je pense qu'on peut le faire, voilà. Mais il faut mettre des moyens pour ça. Sans moyens, on ne pourra pas garantir une place à tout le monde. Je crois que, voilà, tout est dans la manière de le vendre. Voilà, parce que si les gens pensent que sélection, ça veut dire il y aura des exclus, ça sera pas bon. Il faut que tout le monde se dise, j'ai ma place quelque part.
La dernière question est de Georges de Ménil.
Merci, Monsieur le Président. Cher Philippe, difficile de rajouter, je ne cherche pas à rajouter quoi que ce soit aux propos particulièrement riches, par exemple, de notre collègue Jean-Claude Casanova, mais seulement de revenir sur un thème qui me semble que tu évites, celui des droits d'inscription. Ces droits d'inscription sont perçus comme un épouvantail et en fait, ce qui est un scandale, c'est que les familles aisées dont les enfants vont à l'université ne payent pas des droits d'inscription significatifs. C'est ça le scandale. Et de plus, les droits d'inscription, qui peuvent être une entrée financière importante, sont en fait une des clés centrales de l'autonomie dont tout le monde parle. Sans parler du fait que ça responsabilise les professeurs, ça responsabilise les étudiants. Quelqu'un a évoqué la Grande-Bretagne. Mais c'est un grand succès, la réforme de Blair et de Cameron de l'université britannique. Les études montrent que le résultat en ce qui concerne les performances à l'intérieur de l'université sont impressionnantes. Alors, toi qui as tellement enseigné aux États-Unis, pourquoi évites-tu d'aborder ce problème qui est après tout central ?
Philippe Aguillon.
C'est un sujet difficile. Voilà, je n'ai pas vraiment de. Voilà, il faille faire quelque chose. Oui, je ne sais pas encore comment. Voilà, c'est un problème compliqué, et on peut facilement se tromper. D'abord, il y a l'idée que tu mentionnais, un argument de redistribution. Moi, je pense que la redistribution, on peut la faire par la fiscalité, notamment. Donc, tu n'as pas besoin de faire ça par les frais universitaires. Tu peux la faire beaucoup par la fiscalité. Moi, je trouve que, si vous voulez, il y a des modèles. Si tu dis, en France, je vais essayer d'appliquer le modèle britannique, ça ne va même pas marcher. Si tu dis déjà, moi, je vais me rapprocher du modèle scandinave, ça marchera mieux. Je garantis succès. Parce que, voilà, et modèle scandinave, tu as la vraie autonomie, les universités sont totalement autonomes, tu as de la sélection, mais tu as peu de frais universitaires. Alors maintenant, ils veulent rétablir peut-être en graduate school, faire payer les étrangers. Ils vont y aller, mais ils vont y aller doucement, voilà. Parce qu'ils ne veulent pas tout casser, voilà. Ils veulent y aller avec tout le monde. Je pense que c'est plus facile que de pouvoir proposer quelque chose de très, très radical. On a vu un peu le débat pendant les élections présidentielles. Certains étudiants sont venus avec des programmes très radicaux, je vais tout changer, et ça ne marche... Voilà, c'est pas notre culte. C'est un peu... Voilà, des fois, il faut... Je crois un peu aux chênes et aux roseaux, bonne femme de La Fontaine. Des fois, tu vas être un peu flexible, des fois, tu arrives à plus que... Et je crois que dans ce domaine-là, je reconnais qu'il y a une question. Je crois qu'il faut l'aborder avec douce... Il faut l'aborder de manière sereine. Et puis, je n'ai pas encore trouvé un schéma que je trouve miraculeux et qui marche très, très bien. Voilà. Je reconnais que la question est importante. Il faut y aller petit à petit. Déjà de dire mettre des droits d'inscription pour les étudiants étrangers, peut-être dans certaines formations spécialisées en graduate schools, déjà ça serait un premier pas. Mais je suis partisan du gradualisme et de la prudence dans ce domaine, voilà. Parce que sinon on risque de compromettre tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça c'est quelque chose que Valérie Pécresse avait très bien compris. Si on allait très fort sur les droits d'inscription, je ne pouvais plus parler de gouvernance, je ne pouvais plus parler de sélection à l'entrée. C'était terminé, tout le débat était absorbé. Je crois qu'il faut être en la matière, voilà, prudent, parce que on peut très facilement faire dérailler tout le processus. Voilà, c'est ça ma réponse.
Philippe Aguillon, je voulais vous remercier de cette contribution que vous avez faite à nos réflexions. Je dois dire que votre exposé était très complet. Vous avez répondu très précisément à chacune des questions qui vous étaient posées. Et je crois que globalement, c'est dégagé de notre conversation un consensus sur certaines orientations. Alors, vous nous avez appelé à la prudence politique vis-à-vis de l'opinion publique. Et je crois que c'est la sagesse. Nous avons un âge qui nous permet de nous prendre conscience de l'importance du conservatisme par rapport à, au modernisme, mais je crois que c'était vraiment très impressionnant de voir avec quelle précision et quel soin vous avez répondu à chacune de nos questions. Merci.